Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue au Fabercast avec. Écoutez, là, je vous le cacherai pas aujourd'hui, je suis super excité parce que j'ai littéralement, c'est mon seul moment fanboy là, du podcast. Là, je commence au
Cool.
début. Mais on a un de mes humoristes préférés, Guillaume Wagner, aujourd'hui. Je suis tellement content de le recevoir. Comment ça va, man?
Ça va très bien, très très bien, très content d'être là. T'es toujours content de parler de MMA, mon gars.
Ouais, mais c'est ça. Non seulement, en plus, t'es comme un de mes humoristes préférés, mais. Je me suis rendu compte en écoutant ton podcast quand tu as reçu Oli, Charles et tout,
Ouais.
que tu connais ça en maudit. Là. Je me suis rendu compte que t'es pas comme un petit fan de MMA sur le side une fois de temps en temps, t'écoutes ça puis tout. Tu connais des gens, t'es capable de parler genre des fighters que juste le fait que tu saches chez qui ce double-là, je le sais que tu connais l'affaire. Fait que c'est ces discussions-là que j'essaie d'avoir avec le monde parce que.
Ouais. Ben moi, écoute, ça fait pas si longtemps que ça que je suis ça, mais je suis assez monomaniaque. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé à suivre ça, je check tout, là. Tu sais, je check tout, les cartes au complet. Des fois, je check des trucs, des submissions underground, des je sais pas,
Ah
Cage
ouais, non, ça c'est.
Warriors, je check ça. Tu sais, pas tout, là, pas assidûment, là, ces affaires-là, mais mettons, les cartes UFC, j'ai check tout. Fait que mais ça fait pas longtemps. Moi, je suis plus un fan de boxe à la base. Puis j'ai switché dans les dernières années parce que la boxe nous donne rarement les combats qu'on veut. Ça devient frustrant un peu. Je suis encore la boxe parce que c'est facile à suivre parce qu'il y a tellement pas beaucoup de gros combats. On dirait qu'il y en a comme quatre par année. Là. Fait que c'est pas bien dur à suivre. Mais ouais, la UFC en particulier là, me feed plus mon besoin de combat que la boxe.
Ouais, c'est un cheminement qui est quand même classique là, de passer de la
Ouais.
boxe au MMA. J'ai de la misère avec la boxe. Moi, je suis un peu
Ah
le genre de gars qui va écouter les quatre combats qui se passent dans l'année, puis pas le
ouais.
reste. Puis tabarnouche, on dirait, même le combat que je me rappelle le plus, là, vraiment, je pense que c'est Canelo contre Gennady Golovkin.
Ouais.
Il semble que c'est un bon fight la
Ouais.
première fois, puis. Je ne sais pas pourquoi, au bout de 6 rounds d'un combat de boxe, souvent, là, je
Ouais.
commence à gosser sur mon sel. Tu sais, à moins
Je comprends.
écouter, je trouve ça long.
Ouais, c'est long.
Je trouve ça
C'est
long.
long, ça a ses qualités et ses défauts en même temps. Je trouve que vu que c'est long, il y a beaucoup de switch de momentum dans un combat de boxe. C'est plus subtil, ouais. Ça peut être plus dramatique, je trouve. T'sais, un bon combat de boxe pour moi, c'est dur à battre, là. J'ai trouvé que, mettons, Deontay Wilder contre Tyson Fury, le premier, c'est quelque chose.
Ouais, ça, c'était de quoi,
C'est
là?
dur de faire ça en MMA. C'est vraiment. Avoir beaucoup de switch dans un combat comme ça, que ce soit aussi émotif, puis nous tenir en haleine pendant aussi longtemps, parce que tu as raison, c'est vraiment long. Fait que quand c'est bon, c'est bon. Mais moi, je pense qu'il faut avoir commencé avec la boxe pour aimer ça. Si tu es un fan de MMA en même temps, moi, c'est vraiment parce que j'ai commencé avec ça, puis j'ai un amour très profond pour la boxe. J'aime le décorum aussi, j'aime l'aspect un peu. Parce que la UFC, c'est très standardisé là, pour moi.
Non.
C'est comme tout le monde a le même commanditaire, puis tous les octogones sont pareils. Ça file monopole. La boxe, ça file un peu plus tout croche, ça file un petit peu plus promoteur véreux. Mais
Oh,
il y a de quoi que j'aime là-dedans.
le plus drôle, je trouve, c'est vraiment. Puis ça rajoute au fait que c'est super long, là, mais les entrées. Tu sais, quand il y a un
Ouais.
combat, comme justement Wilder Fury, mais le deuxième, les entrées. L'autre, il se fait porter sur un trône. L'autre,
Ça,
il
c'était
arrive
nice,
déguisé en genre en Black Panther, je ne sais pas trop, là, je connais pas trop ça, mais en genre de super-héros. Avec
ouais,
une
c'était une espèce de super-héros black, là, ouais.
costume à genre 25-30 livres sur le dos, puis c'est
Ouais, puis
le gros bout.
après, il a dit que c'était à cause du costume, il avait les jambes lourdes, mais moi, tu vois, justement, ça, j'aime ça. Ça, je trouve ça nice. Je trouve qu'il manque de ça en UFC. Je trouve que les entrées en UFC sont un peu plates. Par contre, ça s'enchaîne vraiment mieux. Les cartes UFC, c'est comme il n'y a pas de niaisage, on s'en va à pause, on revient, les entrées rapidement. Tandis que la boxe, c'est long des fois. S'il y a un KO trop rapide en boxe, ils vont étirer pendant 45 minutes avant le combat principal parce qu'ils veulent absolument qu'il commence à 11 h, bien souvent. Là. Fait que c'est long. Hier, il y avait la première carte de boxe depuis longtemps, c'était Shakur Stevenson qui revenait en action. Puis c'est ça, je me suis rappelé c'était quoi les cartes de boxe. C'était super long. Puis les combats préliminaires sont pourris. C'est à chier. Oh, c'est
pas,
vraiment...
Il n'y a pas de ça, hein?
C'est des semi-prospects qui se battent contre des... Puis là, je veux pas dire le mot jambon parce que c'est vraiment pas fin, là, parce que c'est des monde qui travaille fort aussi, là, mais tu sais, ils sont déclassés complètement, puis tu veux, t'attends le KO, puis c'est tout, puis il n'y a pas d'enjeu, je veux dire, il n'y a pas de raison d'écouter ça autre que faire que, ah, OK, lui, je peux percevoir qu'il y a quand même du talent à travers ce combat ridicule-là, tu sais. Puis il y a juste le combat principal qui est intéressant, puis bien souvent, même le combat principal, c'est un peu quelqu'un qui est overmatch, là, puis c'était le cas hier, encore Shakur Stevenson, il a comme détruit le portoricain que j'oublie le nom, là, tu vois, le Caballero, c'est la première fois que j'entendais parler de lui. Mais ouais, c'est long, ces cartes-là, puis ça s'étire, puis les commentateurs qui patchent entre chaque combat à parler à l'infini d'affaires qu'on ne sait même plus de quoi qu'ils parlent. Fait que ouais, il y a vraiment tout cet aspect-là, mais je sais pas, il y a quelque chose de folklorique là-dedans que j'aime bien aussi en même temps. Fait que puis aussi l'aspect que la boxe, c'est très mondial aussi. Tu sais, tu as des cartes un peu partout dans le monde, tu as un peu des promoteurs de partout dans le monde. Tu sais, mettons, la UFC, ils vont aller à l'étranger de temps en temps, puis ils vont l'annoncer, puis ça, mais crime. C'est rare quand même, là. Tu sais, une carte à Montréal, ça fait une éternité, puis on n'aura pas pour un bout, je pense. Fait que c'est ça, c'est plus accessible, je trouve, c'est plus démocratisé parce qu'il n'y a pas de monopole.
Ouais, le UFC, c'est vrai, ce qui est drôle, c'est qu'ils se pètent des tripes. Genre, par rapport aux fighters qu'ils ont, là. Mm-hmm. Comme là, il y a de plus en plus de Russes, mettons, là, qui deviennent champions, qui deviennent très bons. Fait que là, cette année, avant le corona, justement, il y avait, je pense, un UFC au Kazakhstan là, qui était... Ouais. Fait que là, c'est comme... Là, c'est leur trip de... Oh, on va aller dans cette région-là parce qu'on a des fighters qui vont vendre dans cette région-là.
Ouais.
Comme avant, il y a eu le gros trip au Montréal, tous les plus gros pay-per-view à Montréal quand c'est GSP. Mm-hmm. Comme,
ils développent des marchés, je pense. Ouais, ils essaient de développer. C'est plus business, là, tu sais.
Exactement. Puis, tu sais, ils iront pas quelque part s'ils pensent pas pouvoir vendre avec quelqu'un de là-bas. C'est à l'étranger, souvent, là, parce que des fois, ils ont des cartes bâtards à genre Omaha, là, des places de même.
Ouais,
là,
ouais.
C'est pas trop comment ils se sont retrouvés là. Mais, ouais, c'est bizarre. C'est vrai qu'ils sont centralisés vraiment aux States, à Vegas.
Ouais, Vegas en particulier. Ouais, ouais. Mais moi, mon amour du MMA, là, c'est, j'allais dire la UFC, mais c'est le MMA en général, ça a commencé à Vegas, en fait. Moi, c'était à mes 30 ans, mes amis étaient tous mis ensemble, puis ils m'avaient acheté un billet d'avion, puis un billet pour aller voir GSP contre Johnny Hendricks.
Oh shit!
En 2013.
Ouais, exactement.
Et, mais tu sais, moi, je suivais GSP comme tout le monde parce que je suis un Québécois. Là, fait que, mais c'était à peu près le seul que je suivais, je t'avoue, à MMA parce qu'on entendait parler, ça a l'air c'est le meilleur de tous les temps, puis il vient d'ici. Fait que de temps en temps, je checkais les cartes. Je comprenais pas tout, là, tu sais, comme moi, les takedowns, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, je comprends ce qui se passe, là, mais je comprends pas les techniques. Tu peux comprendre le striking un peu, là, mais plus les mains, là, les coups de pied, c'est pas quelque chose que j'avais vu bien ben souvent. Fait que, tu sais, j'étais pas tombé en amour avec ça avec GSP. Là. Je l'aime, là, GSP, mais pas lui qui m'a fait tomber en amour avec ça. Fait que je suis allé voir ça. Tu sais, j'étais comme content, mais pas tant. Je t'avoue, j'étais comme, ah, j'aurais même mis une carte de boxe, mais merci les boys. Je l'ai pas dit, là, mais c'est ce que je pensais. Parce que pour moi, une carte de boxe à Vegas, c'est comme, il y a un aspect historique à ça. Mais bref, je suis allé, puis j'ai vraiment, vraiment eu du fun. J'avais misé sur plein de combats. Genre, j'avais mis beaucoup, beaucoup d'argent, puis j'en avais fait vraiment beaucoup. Puis j'avais eu un hint de Benoît Baudouin de RDS, qui, lui, était là sur place. Puis là, nous autres, on est là. J'étais avec Mike Ward, j'étais avec Simon Gouache, un ami auteur qui s'appelle Simon Cohen. En tout cas, on est plein de monde. Fait que là, il nous reconnaît, tu sais. Puis là, il me dit, « Hey, si tu veux un petit cue pour miser, il y a Robbie Lawler contre Rory McDonald en sous-carte. » Je pense que, tu sais, Rory était full favori parce qu'il était sur une bonne lancée. Il dit, « Ah, je pense que Robbie, il va gagner. » Tu sais, fait que si vous voulez mettre un petit peu d'argent, mettez un petit peu d'argent sur Robbie Lawler. Moi, j'avais mis full de cash dessus. Puis, il avait gagné quand même assez serré, si je me souviens bien. Il avait gagné. Fait que j'avais capoté. Puis, ça, puis le combat de GSP, bon, c'est un combat quand même dramatique. Là. Tu sais, GSP a quand même mangé une volée, mais il a gagné pareil. Puis, à la fin, il dit qu'il prend sa retraite. C'était insane. Fait que j'avais passé vraiment une belle soirée. Là. J'avais du fun au bout, mais j'étais pas devenu plus un fan du MMA. Tu sais, j'étais comme juste, ah, c'était une belle soirée, c'était le fun. Je vais peut-être réécouter ça à un moment donné, mais je sais pas trop. Puis là, je sais pas quelle année, là, je suis pas bon avec les dates, mais un soir, j'ai rien à faire. Il n'y a pas de carte de boxe. Je suis comme, ah, fuck, j'aurais aimé ça à écouter des combats, mais checker, y a-tu de la UFC? Puis là, je réalise qu'il y a un gars qu'on entend de plus en plus parler, Conor McGregor, qui se bat contre Chad Mendes. Puis là, je check ça un peu, j'essaie de checker les previews, puis tout ça. Puis là, je comprends un peu l'histoire de la patente. Ah, il a l'air nice, Conor McGregor, il a l'air cocky. Il me fait penser à Nassim Ahmed en boxe. Là, je suis comme, ah, OK, ça peut être intéressant. Je vais louer ça, je sais pas trop. Et que je le loue. Ah oui, je l'ai loué aussi parce qu'il y avait Robbie Lawler contre Rory McDonald, le rematch. Fait que je suis comme, ah, j'ai vu le premier. Je suis intéressé de voir le deuxième. Man, le rematch.
C'est le combat le plus ridicule ever, ça.
Là, j'ai fait comme, holy shit, c'est quoi ce sport-là? C'est donc bien nice. Puis après ça, Conor McGregor contre Chad Mendes, c'était vraiment spectaculaire aussi. Là, Conor se fait envoyer au tapis, il se fait faire des takedowns plusieurs fois, puis il se relève, puis il knock-out. Fait que là, j'ai pogné de quoi. Là, j'ai fait comme tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça, ce sport-là? Puis à partir de ce moment-là, je pense que j'ai tout écouté les cartes. Ça a vraiment été cet événement-là que je pense qu'on pourrait considérer comme une des meilleures cartes de tous les temps, avec du recul.
Absolument, man, absolument. Là. Écoute, ouais. Il me semble qu'il y a eu c'est pas Jeremy Stephens qui a un flying knee pas rapport, là.
Ça se peut très bien.
Thomas Almeida, le Brésilien, qui avait knocké Brad Pickett bien raide. La carte, il arrivait de quoi? De genre ridicule, encore plus ridicule, encore plus ridicule. Lawler contre McDonald. Que ça allait atteindre des niveaux de ridicule, je pense, jamais.
Ah, c'est le combat le plus violent, sanglant, malaisant, limite, que j'ai vu de ma vie, mais c'était incroyable. C'était un film de Rocky là, live. Fait que, ouais, j'ai vraiment, vraiment accroché avec ça. Avec le recul, je suis comme, OK, j'ai vu probablement une des meilleures cartes de tous les temps, puis je reverrai probablement pas ça, mais ça m'a hooked. Puis depuis ce temps-là, je check tout. Fait que, ouais, c'est un peu ça, la petite histoire de mon amour du MMA.
Yes, hey, c'est un peu similaire, Moutou, dans le sens que
ah ouais?
c'est Georges qui m'a fait écouter le sport, mais j'ai longtemps écouté les combats de Georges, puis juste ça.
Ouais,
je travaillais à Cajon Sport aussi, j'étais cuisinier. Fait que là, un moment donné, quand il y avait des pay-per-views, je restais, puis je checkais ça. Je connaissais, mettons, Anderson, Silva, José Aldo, mais pas extensively. Puis écoute, moi, c'est Saint-Pierre contre Diaz. Moi. C'est les frères Diaz qui m'ont accroché complètement à ce sport-là. C'est
les bons vieux Diaz.
Ah ouais, c'est mes boys. Juste, j'y trouve tellement. Dans un sport où t'as plein de gars qui essayent vraiment de se créer une gimmick, qui essayent vraiment de se créer un personnage pour se rendre intéressant, puis eux, man, ils essayent même pas. Puis c'est les deux grands personnages de l'histoire là, du sport, mais juste parce qu'ils sont naturels. Juste le fait d'être eux-mêmes, là, t'es comme ces deux des spéciaux qui existent, puis il y a juste eux qui sont capables de faire les affaires comme ils font. Puis
mais... Quand on les écoute, ces deux-là, en tout cas, moi, la première fois que je les ai entendus, on a comme le feeling comme, mais crime, ils devraient pas passer à la TV, ces gars-là. C'est trop des thugs. C'est des fumeux de potes, des thugs. Ils sont comme, ils ont la pire. Ils sont pas présentables, mettons. Ils sont pas présentables à télé, mais ils sont obligés de les présenter parce que, tu sais, ils sont bons, ils ont du talent, puis ils sont vraiment well-rounded aussi. Là. Puis, mais tu sais, le fameux call-out de Nate Diaz sur Conor McGregor, c'était à Fox, là, je me rappelle avoir vu ça live. Puis là, bip, 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 bip. Là, je suis comme, oh shit, ce gars-là, ils sont pas contents, là, la UFC, quand il y a un gars qui vient curse à Fox, là, tu sais, bon, c'est plus à Fox maintenant, mais tu sais, c'était comme un gros contrat quand même qu'il y avait. Fait que, ouais, non, ils sont géniales, ils sont vraiment pas présentables.
Puis c'est comme certains des gars que, si tu regardes là à première vue, t'es genre, justement, c'est qui ce style de monde-là? Sacrément, ils sont bien caves, genre, de la manière qu'ils agissent, mais hey, c'est tellement des génies, ces gars-là, là, veux pas. ça, c'est pas les gars les plus intelligents, on se le cachera pas, là, mais hey, genre, comme justement, ce call-out-là de Nate Diaz, c'est incroyable parce que c'était vraiment le call-out. Tu sais, au moment, là, moi, je m'en rappelle, je comprenais fuck all, Michel. Comment ça tu calls McGregor? Il me semble que t'es comme pas trop dans la position de te pogner.
Ben oui, 100%.
T'avais pas rapport, pas à tout, mais il a comme juste mis ça dans l'univers, puis ça s'est tout bonnement manifesté because MMA, il y a tout le temps quelqu'un qui laisse un esti d'affaires par rapport qui arrive. Puis là, oh, changement de dernière minute. Puis genre, Nate Diaz aussi, il l'a envoyé chier l'autre jour. On va essayer Nate Diaz.
Ouais, ouais. Puis il est tout le temps prêt. On le sait qu'il est tout le temps en shape.
C'est ça, ils sont exactement des genre des marathoniens, eux autres, là, sont tout le temps en train de courir dans les montagnes, font des Ironman et tout. Fait que...
Mais tu sais, tu dis qu'ils sont pas super bright, puis je suis quand même d'accord avec toi, mais en même temps, je pense qu'ils sont fucking bright dans le sens que je pense qu'ils sont un niveau de plus que nous autres, parce que tu sais, faire ça...
Ces affaires-là sont incroyables.
Ah ouais, lui, il connaît la game, là, il comprend qu'il faut qu'il mette son nom out there, puis c'est en faisant des statements comme ça, puis qu'on va... Tu sais, je me rappelle le lendemain qu'il avait fait ce statement-là. Plein de monde que je connaissais sur mon Facebook, tout ça, des gens qui suivaient ça plus ou moins, mais qui étaient tombés dessus, étaient pistes après lui, étaient comme, c'est qui ce style-là, pour qui il se prend, genre, il vient de scraper sa carrière, genre, sacré de même à TV, dire n'importe quoi, call out une grosse vedette, tu t'auras jamais, t'es un cap, tout ça. Mais j'étais comme, oh shit, le gars, il a du heat, là, tu sais, moi, j'étais un gars qui tripe sa lutte professionnelle aussi, là. Le gars, il est devenu un heel, tu sais, c'est bon être un heel parce que ça fait vendre. Puis c'est ça, tu sais, il pouvait s'en servir à dernière minute comme pour remplacer. Puis finalement, il a vraiment fait la job. Fait qu'ils sont vraiment brillants là-dessus. Puis juste le fait que, tu sais, Nate Diaz a toujours voulu plus d'argent, négocier ses contrats super serrés, Nick aussi. Là, tout le monde suit ça, là, tout d'un coup. Là. Il y a un mouvement là, en ce moment. John Jones veut plus d'argent. Masvidal veut plus d'argent. Puis je sais pas si tu as vu ça, mais Nate Diaz a écrit sur le Twitter comme « Ah, vous êtes rendus des grands garçons, comme vous êtes grown up, là, vous êtes rendus des adultes. Félicitations, bienvenue dans mon clan finalement. » Tu sais, parce que tout le monde chiait sur Nate là, qui négociait serré ses affaires, puis comme il vaut pas ça, puis tout ça, mais il est brillant. Tu sais, c'est quand même des commotions cérébrales, tu vas pas te prendre ça pour rien. Là.
Non, puis tu sais, le nombre de temps justement, il se prend pour qui lui, nanana, puis t'as Dana qui dit. Et puis ça le bite in the ass solide, là, mais la fameuse quote, là, he's not a needle mover, he's not like his brother. Le gars a juste turn out. Il a littéralement turn out à être la deuxième plus grosse star dans le sport. Là, en termes de vente de pay-per-view et tout. Là.
Ouais.
Ce gars-là, il est là, ça vend des pay-per-view contre Masvidal, ça s'est vendu. Genre, comme personne pensait vraiment que ça allait se vendre. Pis...
Ouais.
Masvidal, il est hot, son encore était fou, mais c'est pas à cause de lui. Là. Ça fait 15 ans qu'il est là, le gars, puis il a jamais vraiment vendu avant ce moment précis-là. Fait que c'est pas à cause de Diaz. Puis, les deux, ils ont réussi à créer vraiment la gimmick comme anti-establishment. Là. Je suis contre le pouvoir, le boss, il est contre moi, puis moi, je suis comme le petit rebelle là, qui est toujours en opposition avec peu importe qui est au pouvoir. Puis, même dans la communauté MMA, là, c'est une gimmick qui paye.
Ouais, non, c'est pas grave.
Il y a beaucoup de gens qui relate, là.
Moi, je relate au bout, j'adore ça. Là, je suis quand même... Mais tu sais, moi, je viens de la boxe aussi, là, fait qu'ils se font tellement fourrer les pro fighters UFC, c'est épouvantable. C'est quoi, c'est 13% des revenus qui leur revient?
Dans
tous les sports professionnels, c'est 50-50, là, à peu près, là, tu sais. Bon, c'est sûr que c'est différent, là, la NBA, puis là, tu sais, ils ont des syndicats, puis ça. Mais tu sais, même en boxe, il n'y a pas de syndicat, rien. Je veux dire, une grosse star... Ça fait des gros, gros montants. Puis je pense que c'est ça l'affaire avec le John Jones. Dana White, il dit « Ah, il veut l'argent, style Deontay Wilder. » Comme si c'était ridicule. C'est comme « Hey, man, de quoi tu parles? » Toi-même, tu as dit que John Jones, c'était le meilleur de tous les temps. Ton meilleur pound for pound, tu veux pas le payer le prix de genre un heavyweight qui est même plus champion. Là, tu sais, c'est pas un des plus grands de tous les temps. Là, Deontay Wilder, je l'adore. Là, il y a des KO et il est spectaculaire, mais il attire même pas personne. Il n'y a même pas personne qui va voir ses combats. C'est pas mal Fury qui l'a mis au monde. Ça fait que tu veux pas le payer ça, ben là, tu viens d'avouer que tu fous tout le monde. Je suis vraiment désolé de te le dire.
Ah, ben oui, c'est exactement ça. Moi, je suis tellement content que ça arrive en ce moment parce que c'est tellement un de mes chevals de bataille principal parce que veux pas. Tu sais, ce que ça m'a amené, le couvrir le sport tout, plus au niveau local, c'est que les fighters, c'est littéralement mes amis. Okay? C'est sûr, moi, tout, je m'entraîne, je fais du jiu-jitsu et tout. Fait, ça me permet de m'entraîner avec eux et tout. Ça fait que les gars, c'est mes chums. Si je les aime, c'est du bon monde puis j'ai leur succès à cœur. Il n'y a personne qui fait une scène dans ce sport-là. Puis je comprends pas comment. Tu sais, sacrément, man. Pourquoi tes gars crèvent de faim de même? Puis l'autre jour, j'en parlais justement, j'avais Charles Jourdain là, sur le podcast. Mm-hmm. Puis on s'ostinait pas, mais un peu peut-être, parce que Charles est vraiment une petite mentalité. Là. Lui, des gars comme lui, ils n'auront jamais de problème. Tu comprends? Charles,
il est warrior.
Il sait déjà dans sa tête qu'il mérite l'univers au complet, puis il va juste aller à chercher, genre. Il va jamais être le gars qui va attendre qu'on lui donne ce qu'il pense qui lui est dû. Fait que ce gars-là, je veux dire, il n'a jamais de problème avec lui. Fait que je le comprends d'avoir la mentalité plus hey, si tu veux de quoi, il faut que tu ailles le chercher. Puis il n'y a personne qui va te donner un chèque de 100 000 $ c'est de même pour le fun. Mais moi, mon argument de base, c'est il manque un zéro sur la paye de tout le monde.
Littéralement. C'est clair.
Il y a tellement de gars que, tu sais, je le sais pour un fait, là, qu'il y a des combats qui, des fois, sont moins bons qu'ils pourraient être pour la simple et unique raison que le gars, puis tout, le système de paye est fucké, là, dans, tu sais, tu gagnes, tu as la moitié de ta paye garantie, puis tu as l'autre moitié de ta paye si tu gagnes. Mais il y a des gars qui ont littéralement besoin de toute leur paye pour manger.
Ben oui.
Fait que ces gars-là, quand ils sont un peu au pied du mur, ça se peut là, justement, qu'ils se mettent à lutter en malade puis qu'ils humpent un esti de boring decision, sachant qu'il paraîtra pas super bien à la TV, mais au moins, il va avoir tout son cash.
Mm-hmm. Ouais, non, mais c'est hallucinant en plus. Je veux dire, il y en a qui ont d'autres jobs, tu sais.
Ouais, c'est
t'es en UFC puis t'as no job. T'es pas genre dans la plus grande fédération de MMA au monde, puis ils payent tout croche demain. Non, non, c'est absolument hallucinant. Toute l'affaire des fight bonus, là, tu sais, qui est-ce, c'est ça? On dirait vraiment une affaire d'exploiteur, là. Si tu me donnes la bonne TV, m'a te donné 50 000. 50 000? C'est donc bien de la marbre, tes bonus. C'est quoi, de quoi tu parles, 50 000? Les gros combats intéressants. Penses-tu vraiment... Penses-tu qu'Arturo Gatti contre Mickey Ward, qui n'étaient même pas des tops, là, c'était payé 50 000 pour nous donner ça. Je veux dire, des combats spectaculaires comme ça, ça vaut plus que 50 000. En tout cas, c'est vraiment absurde. T'sais, des patchs pour... C'est de la poudre aux yeux pour les gars, pour leur faire croire qu'ils sont payés correct. Puis, mais c'est dommage. Mais en même temps, les top dogs sont de mieux en mieux payés, je pense. Là, je veux dire, des gars comme Connor savent négocier leur contrat. Là, puis, mais bon, lui aussi, là, tu le vois, là, lui aussi, il ne veut pas revenir. Il dit qu'il a pris, ça fait 8 fois qu'il prend sa retraite. Là, mais c'est comme son pouvoir de négociation. Mais... mais lui avec, il est tanné. Hein. Mais tu sais, c'est vraiment absurde en ce moment ce qui se passe parce que le levier de négociation de Dana White, c'est comme hey, on est en temps de COVID, j'ai plus de gate. Ouais, mais t'as jamais donné de pourcentage à la gate, ces gars. Tu leur as jamais rien donné de la gate. Fait que c'est ton hostie de problème, Chris, nous patience avec ça. Fait que là, il veut baisser la paye des gars parce qu'il n'y a pas de gate. C'est comme man, t'es-tu les sopranos? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment absurde ce qu'on voit en ce moment. Moi, je pense que quand la UFC a été vendue pour 4 milliards, les gars auraient dû faire comme OK, on va faire un petit syndicat parce que là. Vous faites beaucoup trop de cash, puis nous, vraiment pas beaucoup.
Eh ouais, mais il y a un lawsuit là, contre le UFC en plus des anciens combattants. Je pense que c'est genre Kung Lee qui est là-dedans, Nate Quarry. C'est vraiment des vieux gars.
Ouais.
Puis, écoute, même les chiffres qui sortent en cours, là, justement, du split des revenus, puis tout, ça n'a aucun bon sens, man. Considérant que tu sais, l'UFC a littéralement. Je pense en Amérique du Nord, parce qu'en Asie, tu as ONEFC et tout, qui font quasiment de la belle business là-bas. Là.
Ouais.
Mais en Amérique du Nord, je pense 90% de tout l'argent qui va dans le MMA, c'est à l'UFC qui va. Ils ont 90% des revenus associés au sport, littéralement. Chris, man, là, en ce moment, là, c'est comme en fin de semaine, Charles Jourdain se bat. Je sais pas si tu as vu la carte, là, mais. C'est la pire affaire que j'ai vue de tout.
Ouais, c'est la pire que j'ai vue, ouais.
Genre du main event où hey, y a des noms là que même moi qui faut que je reste au courant, faut que je sais prédiction là à toutes les crises de semaine. Il y a des noms là-dessus que man, c'est même pas genre ah oh, lui c'est un nouveau, je le connais pas. C'est oui, lui, là, je le sais qu'il s'est battu 2-3 fois, mais il est tellement nowhere que je me rappelle aucunement de c'est quoi son style.
Ouais, ouais.
De faire parce que c'est juste pas un gros calibre de combattant.
Ah non, écoute, le main event, il pourrait être le premier combat d'un early prelim que ça m'exciterait autant, tu comprends? Là, c'est comme Jessica High contre Cynthia Calvillo. OK, je vais l'écouter, mais...
Genre, Sean Malley contre Eddie Wineman, là, c'est plus un main event que
mais
ça.
Mais en. Mais... Big time. Mais tu sais, moi, je vais vraiment l'écouter pour Charles, là, cette carte-là. Là. C'est vraiment mon highlight de cette carte-là, mais... C'est le seul combat intéressant pour moi avec Carl Robertson contre Vettori aussi. Là. C'est quand même pas si pire, là, mais
Ouais, ben, on dirait que je peux pas truster Marvin Vettori vraiment d'un fight, genre.
Ouais, non, regarde, je suis avec toi, là. C'est, ça va être la responsabilité de Robertson.
Ouais, exact. Mais tu sais, que tu sois 17 ou pas, c'est le highlight de la carte, là, Charles contre André Fili. Si tu as moindrement vu le style des deux, c'est sûr que ça va être. Puis tu as Ray Borg.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses?
Man, j'ai un bon feeling.
Moi aussi.
J'ai un très bon feeling. Moi, Charles me l'a déjà dit, là, parce que j'avais vu, c'est quand j'avais bet contre lui, quand il s'était battu au TKO contre Matar Lowe, je pense. Puis j'avais okay. J'avais prédit qu'il allait perdre. Parce que, man, Matar Lowe, là, il mesure comme 6 pieds 3, là, 145 livres. J'étais là, je sais pas comment il va dealer avec ce reach-là. Tu sais, 6 pieds 3, puis c'est un bon gars de Muay Thai. Bon jab, bon, tu sais, des bons outils pour garder sa distance, là, des bons body kicks, des bons kicks partout. J'sais, ça va être dur pour Charles de rentrer dans ce range-là. Man, il te l'a allumé bien raide. Puis après le combat, il m'a dit, man, combat de debout, combat de striking, bête jamais contre Charles Jourdain, je te le dis. Puis, tu sais, André Fili, autant, il y a des combats qu'il a gagné ou qu'il a perdu de façon très serrée parce qu'il s'est bien débrouillé dans le grappling. Puis ses adversaires pensaient peut-être un peu le prendre de court de là. Puis c'est un meilleur grappler, finalement, que les gens s'attendaient. Fait que, oh, le combat était plus difficile. C'est pas ça qui va arriver avec Charles. Là. Charles n'essaiera pas de le grapple. Mm-hmm. Puis il est tellement opportuniste, là, ce jeune-là. Là. C'est ouais, incroyable. Ouais. C'est une des personnes que j'ai vu se battre qui est le plus capable de reconnaître une opportunité de même, puis juste sauter dessus, puis sortir de quoi de son chapeau. Qu'ils sont en train de gagner ou qu'ils sont en train de perdre ou qu'il se passe n'importe quoi dans le combat. Il est toujours ouais. focus. Puis le fait que ça va sûrement échanger debout pendant 15 minutes, Charles veut juste avoir 15 minutes pour trouver son spot. Puis André Fili a donné des opportunités de se faire finir avant, puis ouais, s'est fait ouais, finir ouais. avant. Fait. J'ai confiance.
Mais quand même, ouais, c'est ça. Niaise pas avec Charles, pareil, Colin, quand non, il est arrivé à 155, c'était ça à 155 ou?
Ouais.
Contre Desmond Green, c'est comme. Oh ouais, tu commences avec ça. Pourquoi t'as dit oui à ça? C'est même pas ton poids. Là, tu leur fais un solide tout en partant. Là. Je comprends qu'ils ben, vont l'apprécier.
Dans sa ville, mais... en plus, même.
Non, ça, c'est vrai, c'était
chouette. Dans son hometown. Puis, tu sais, Desmond Green, là, fait pas bien paraître personne. Là.
Non.
C'est, comme je disais tantôt, il y a des combattants que, d'après moi, si t'es payé plus, ils vont donner des meilleurs combats parce qu'ils seront pas inquiétés de savoir s'ils vont manger ou pas. Puis, t'as Desmond Green. Desmond Green, là, c'est un neutralisateur. Il est juste là pour te faire mal paraître. Puis, que tu donnes tout l'argent à du monde, il te donnera pas les meilleurs fights. Là. C'est pas lui. Là.
Mais ouais, mais il y a beaucoup d'outils, ce gars-là. Là, oh, mais j'ai trouvé, par exemple, que même s'il a perdu, j'ai trouvé que, tu sais, au début, je le sentais pas un peu impressionné là, d'être en UFC. Puis, ça, puis être comme, oh shit, OK, c'est pas la même game quand même. Puis, plus le combat avançait, plus il était comme, mais non, si j'ai rapport ici, puis je suis capable de me débrouiller, puis il est allé chercher sa confiance, je pense, pendant ce combat-là, même s'il a perdu, je pense qu'à la fin, il était gagnant, entre guillemets, dans ce combat-là. Puis il a transporté ça jusqu'à son deuxième combat contre Duo Choi, mais tu sais, c'est ça, Desmond Green, Duo Choi, puis après ça, André Fili, c'est comme, tabarnak, normalement, les gars qui arrivent, ils ont, c'est plus relax, mettons, là, mais lui, il va tous les plus gros défis.
Ah, c'est pour ça que je te dis que ce jeune-là, côté faire de l'argent avec ce sport-là, il n'y aura jamais de problème parce que il y a bien du monde qui arrive et « Ah non, je suis jeune, je veux prendre mon temps. » Lui, c'est genre « Hey, il n'y a pas de prenage de temps, là, c'est un sprint, là, c'est pas un marathon, là, je vais me battre jusqu'à 45 ans, là, je veux pas devenir Tito Ortiz, moi, là. Là. Je veux arriver là, me battre contre les meilleurs, faire le plus d'argent, avoir mes opportunités le plus rapidement possible. »
Ouais.
Tu sais, comme un peu Connor, un peu le dit, là, make that cheese and get out, man.
Ouais.
C'est, les gars finissent jamais en bon état là, dans ce sport-là.
Ouais, mais s'il gagne ça, je sais pas si. Qu'est-ce qui. D'après moi, il va y avoir un gars classé après ça s'il gagne ça. Là.
Ben, je pense que c'est Cobb Swanson.
Il veut Cobb, mais.
Il a tout ça dessiné dans sa tête, là. Puis je sais que Cobb Swanson, il a fait une coupe de mention. Puis Cobb, il a même envoyé un tweet là, récemment, là, quand le fight était annoncé. Puis il a dit, okay. Et un Jourdain, man, gagne ça, puis je vais être à l'écoute, puis après ça, on va pouvoir faire notre fight. Puis lui, je pense que c'est son idole, le Cobb Swanson.
Ouais, il m'a dit ça sur mon podcast, mais...
C'est son bucket list fight. Puis après, ouais. Il m'a dit qu'il checkait, ça, je sais pas, c'est ça, je trouve ça cave, mais c'est Charles, là. Il checkait pour Barboza.
Ah ouais?
Ouais.
OK. Mais Barboza, je pense qu'il a fait le move, il est rendu à...
Ouais, il est rendu à 145. Okay. Il aurait dû gagner son combat, d'ailleurs.
Hey, man, cette carte-là, là, tu sais, moi, je mise.
Les
là.
Décisions, man.
Les trois... plus que trois controversés, mais en tout cas, je me souviens, Vera, Angela Hill, puis ça, Barboza. Moi, j'avais misé sur ces trois-là. Ils ont toutes perdu. J'étais piste, mon gars. J'étais comme, mais pourquoi j'écoute ça? Si vous donnez les pires décisions qu'il n'y a pas... Tu sais, pour moi, c'était trois évidentes. Une sur le tas, c'est correct, là, mais les trois, c'est comme « fuck off », là. C'était n'importe quoi. Ouais, pauvre Barboza. Pas son break.
Non, mais ça, c'était...
Il a failli l'assassiner.
Mais oui, c'est ça.
Puis hey. Il perd.
Mais c'est le Florida effect, là. C'est sûr qu'il allait avoir de la fuckery quand il se présente trois cartes en une semaine en Floride. Puis, of course, man, c'est la commission athlétique qui représente le mieux l'état dans lequel elle se trouve, là. Il n'y a jamais rien de normal qui se passe là. Ouais. C'est comme la place que... Tu sais, comme mettons, tu as New York, qui est vraiment très récente là, en MMA, puis qu'ils font des gaffes, c'était là, mais c'est comme des gaffes de bon cœur quand même. Là. C'est comme ils essayent de bien faire les choses, puis que tout soit fait, puis là, ils vont faire un petit move qui n'a pas rapport, mais les intentions derrière ça étaient quand même bonnes. En Floride, c'est littéralement la commission qui va fermer les yeux sur un drug test failed jusqu'après le combat pour pas trop faire chier le promoteur en annulant son combat parce que sinon, ben, il reviendra peut-être plus ici. Les autres,
ouais, c'est drôle ça. Mais ouais, écoute. Ben,
c'est drôle ou pas drôle, là, ça dépend.
Non, mais écoute, sont assez ridicules, là, eux autres, là, tu sais, leur gouverneur. Moi, j'ai suivi un peu ça parce que je fais des chroniques à Radio-Can, puis je rapporte un peu les nouvelles, là, quelque part, là. Puis leur gouverneur, Ron DeSantis, là, il est très pro-Trump, là, très chummy avec Trump, puis il a été le premier à rouvrir l'État. Mais tu sais, quand c'était. Il y avait foule de morts dans son État. C'était bad, lui comme whatever, on ouvre les plages, tout va bien, amenez-moi ça la UFC, amenez-moi ça la WWE. Fait que c'est comme pas du monde super responsable en général, là, on dirait, là, dans les instances gouvernementales là-bas. Mais ouais, mais Barboza après, mais c'est drôle parce que je trouve que Charles, il est parfait pour un promoteur parce que je trouve qu'il pense en promoteur. Il est comme, hey, je pense que ça ferait un bon fight contre Barboza. C'est sûr que ça serait spectaculaire et effectivement, il a raison, mais il pense pas à sa santé, mettons. Il pense à qu'est-ce qui va donner un bon show, on dirait.
Non, c'est ça exactement, man. C'est totalement ça. Puis la Floride, la seule affaire, je trouve que ça a donné de bon, là, tout ça, là, de ramener, mettre la WWE essentielle, puis tout, là. Ce que ça a donné de bon, je sais pas si tu as vu, mais c'est les matchs vraiment super scriptés, édités à fond qu'il y a eu à WrestleMania.
Ouais, j'ai écouté ça.
Ça, écoute, si la lutte, c'est pour être ça, moi, je suis 100% down avec ça. C'est Undertaker contre AJ Styles ou Cena contre The Fiend. Hey, c'est pas magnifique, ça? Ou le Money in the Bank match qu'il y a eu aussi récemment. Là. Asti que c'était cave, mais c'est ça que je veux. J'en dirais, la lutte... Moi, tout, j'étais un fan de lutte depuis longtemps, mais j'ai toujours plus été fan des affaires vraiment stupides qui arrivaient que de, tu sais, mettons, Undertaker contre Shawn Michaels. C'est que tout le monde dit que c'est vraiment un bon match de lutte, mais je vais toujours mieux aimer de quoi de vraiment crissement ridicule, des promos, des affaires over-scriptées qui n'ont pas rapport que les matchs de lutte en tant que tel. Puis, moi, on dit que je trouve ça excellent. Là. Il y a même eu le... Comment c'était AEW, l'autre promotion?
Ouais.
Ils ont fait le Stadium Brawl là, dans le stade des Jaguars, qui était assez drôle parce que c'est juste un méga flex là, du propriétaire des Jaguars qui est genre, hey, checker mon stade, il est vraiment nice. Ils vont vraiment aller partout, les places super nice dans le stade pour être sûr que tout le monde le voit.
Mettre mon logo partout.
Mais écoute, ils se sont permis de faire des affaires qu'on ne voit pas souvent dans la lutte avec un crowd puis tout, puis je trouve ça tellement excellent. Ben, la lutte, ouais, autres... que ça soit over the top, là.
Ouais, mais je suis content que ça existe, eux autres, là. Je suis content qu'ils aient parti ça, puis qu'ils essaient de faire les affaires différemment, puis qu'ils essaient de faire avancer ça. Parce que moi, la WWE, je t'avoue que ça fait un bout que j'ai checké ça, parce que c'est ça, là, c'est très standardisé. On dirait que tout le monde a la même toune d'entrée, là. Ça paraît que c'est toute la même personne qui fait les costumes aussi. Tout est pareil, du monde, pas de personnalité. Tout est ultra scripté, puis pas real, tu sais. Moi, genre, je viens de... je viens de, c'est comme NWO, puis tout ça, là, quand c'était un petit peu plus l'envers du décor, puis un petit peu plus real, je sais que ils l'ont trop fait, ça, puis à un moment donné, il faut faire autre chose, mais j'avais un peu décroché, mais c'est ça, le WrestleMania, je l'avais checké parce que justement, quand je te disais tantôt, je fais de la radio, il faut que je rapporte ce qui se passe, puis c'était quand même un gros événement, c'était le premier événement live depuis un bout, fait que j'étais comme, bon, il faut que j'écoute ça, le WrestleMania, je vais en parler le lendemain à la radio, je me suis fumé un bat, j'ai écouté ça, je regarde, hey man, j'ai pas bad trippé, j'ai bien trippé, mais je capote, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui se passe, c'était écœurant, hein? Kevin Owens m'a fait tripper, là, ouais.
Moi, c'est
écœurant, ce gars-là.
C'est lui qui m'a fait réécouter la lutte. Là, moi, j'étais un gros fan d'Altan quand j'étais plus jeune. J'ai vraiment trippé sur Edge, là, étrangement. Là. Edge, ouais, c'était mon dark préféré. Là, le temps des gros yeux nice. D'avec Cena et tout. C'est écœurant, mais j'ai perdu l'intérêt en vieillissant. Puis tu sais que le produit, ça venait de moins en moins bon aussi. Puis là, quand j'ai entendu que Kevin Owens était là, parce que lui, il vient de Marieville. Moi, je suis Saint-Jean sur Richelieu. C'est à côté de chez nous, là. Fait que c'est comme littéralement un gars de chez nous qui finissait dans la plus grosse promotion. Puis j'en ai beaucoup entendu parler parce que je fais du jujitsu avec PCO.
Ah ouais? Ouais. Je l'ai reçu, PCO.
Ah, oh, c'est un malade, man, ce gars-là. Là, c'est le next level malade mental, ça. Là.
Lui, là, man, il veut mourir sur un ring. Puis il s'organise bien. Mais il est chaud, man. C'est un vrai de vrai lutteur. Là. Il va faire ça jusqu'à la fin. Je respecte beaucoup ça, je trouve. The Wrestler, le film The Wrestler, c'est lui, là, tu sais.
Ah, absolument. C'est un fou. J'ai jamais vu une personne qui ne ressentait pas la douleur comme lui, là. C'est quelque chose de complètement ridicule, là.
Ça n'a pas rapport.
Tu peux faire un backflip, là, d'une échelle, manger le ciment parce que ses catchers sont pas là, et lui se relève comme si de rien n'était, là, commotionné raide, mais c'est pas grave, mais non. On finit le match, les boys!
Ouais, mais moi, quand je le ressens à mon podcast, c'était quand j'habitais à Montréal. Je suis plus à Montréal, j'ai déménagé, mais j'avais un appart comme troisième étage, mais c'est juste des escaliers. Il n'y a pas d'ascenseur, là. Puis je le regardais monter. Je suis comme, hey man, il est magané, là. Il y a de la misère, puis tout ça. Puis je suis comme, voir qu'il lutte, cet homme-là. Il avait l'air magané, mais tu sais, il était super fin, il était allumé, il était sweet, tout ça. Puis après ça, tu checks ses combats, il a pas l'air magané, il boite pas dans ses combats, il lutte. Là, tu sais, comme il tombe dans sa zone, je lutte en ce moment, puis j'aurai mal plus tard, tu sais. Il vit pour ça, là, carrément, là. J'ai beaucoup d'admiration que je comprends pas trop pour PCO.
Ah ouais, surtout depuis ce genre sa renaissance là, récemment, que sa gimmick, c'est vraiment... Je vais être super cave 100% du temps. Je vais être comme le gros doute de 300 quelques livres qui fait des moonsaults un peu n'importe où. Puis des astuces d'affaires qui n'ont aucun rapport, tu sais. Puis
moi, c'est la gimmick est bonne. La gimmick est bonne. Je suis hyper vieux, mais je suis comme ressuscité comme Frankenstein ou je sais pas quoi.
Ah, oh, et puis il y a des trucs qui le boost, man, là, avec des cordes à booster. Puis là, ils hold cup, puis ils pètent du monde, puis ils no-sell tout. C'est écœurant, man.
Ouais, non, c'est parfait, il est parfait. Mais ouais, tu parlais de Kevin Owens.
Ben, c'est ça. Puis CEO, il m'en a beaucoup parlé, là, de lui. Okay. Parce qu'il a lutté, lui, puis Sami Zayn, là, les trois, okay, pas mal sur la scène indépendante, puis tout avec eux autres se retrouvent à ROH. Là. Fait que quand il a signé, j'étais là, ah, j'ai pas le choix de regarder ça. Puis Kevin Owens, man, c'est un naturel, là, il est tellement bon. Puis c'est le genre de lutteur que j'aime parce qu'il est bon au micro, man. C'est quelqu'un que ça le hold back d'avoir des promos scriptés, là, littéralement. Ouais. C'est un genre de Chris Jericho, là, que tu lui donnes un micro, puis le gars, il va t'avoir des catchphrases for days sans même y penser. Il est juste écœurant. Hein,
que... Ouais, c'est un vrai de vrai lutteur. Genre, il comprend vraiment la psychologie d'un combat de lutte, comment mener ça. Puis en plus, il est capable d'être acrobatique. Il a tout, là. Il est spectaculaire, il est rough en même temps, il est capable de bien sell. En tout cas, il fait tout comme faut. Il me fait penser genre à la psychologie là, des vieux lutteurs, genre Bret Hart, je sais pas, Chris Benoit, puis tous ces gars-là. Là. Bon, je sais qu'il faut plus dire Chris Benoit, là, mais je l'ai dit pareil. Il était bon.
C'était un des meilleurs lutteurs, là.
Ouais. Mais ce genre de lutteur-là, je trouve ça vraiment nice. Je trouve ça nice qu'il y ait un retour de ça, en fait. Ouais,
puis c'est ce qui m'a vraiment fait, je pense, déchanter, là, précisément, qui fait que je ne l'écoute plus, mais je pense que j'écoute les Big Four pay-per-view, puis quand j'ai un de mes amis qui me dit « Ah, mettons, tel pay-per-view, il va avoir tel match qui va être vraiment super attardé », ben là, je l'écoute parce que c'est pour ça, tu sais, je suis là pour ça, là, je veux pas.
Ouais.
Mais ce qui m'a... vraiment fait décoller de ça, c'est quand ils ont donné la belt à Kevin Owens. Ils ont donné le championnat du monde, là, le Universal Title qu'ils appellent.
Ouais, ouais, ouais.
T'sais, il l'a eu pendant longtemps, mais il n'a pas vraiment eu une bonne run. Ils l'ont pas full bien fait paraître comme champion. Là. Puis, man, le moment donné, WrestleMania season est arrivé. Puis, pour une raison ou une autre, ils l'ont fait jobber là, contre Goldberg. Puis, genre, ce qui arrive, c'est qu'on dirait que toute l'année, ils bâtissent de quoi? De genre, Kevin Owens, nanana, c'est notre champion. Là, oh, WrestleMania arrive, fait que là, il faut nos gros stars. Fait que le gars, il se fait genre péter en 30 secondes par Goldberg, qui devient ouais. champion du monde pour main eventer WrestleMania
contre à 62 ans.
Lesnar. Comme si quelqu'un voulait vraiment voir ça, tu sais.
Mais ils vivent beaucoup dans le passé, tu sais. Ils essaient de récupérer le succès du passé. Ils pensent pas à bâtir l'avenir, là. Mais c'est parce que ça reviendra pas, là, cette espèce d'âge d'or de la lutte, là. Ça sera jamais ça à nouveau, mais... Mais en même temps, moi, quand ils ramènent des vieux, je trouve ça cute, là. Je trouve ça le fun, mais... Je suis pas sûr qu'ils devraient faire ça. Pas, en tout cas, pas autant, là, tu sais. Pas faire main eventer Goldberg, justement, là, qui a jamais eu beaucoup de talent, là, d'ailleurs. Là. Il est vraiment excitant comme personnalité, là, mais ouais, je pense qu'ils vivent dans le passé et qu'ils ont de la misère à faire la transition comme il faut. Mais en même temps, ils ont l'air de faire de la bonne business encore, là, tu sais. Je trouve ça impressionnant qu'ils aient maintenu... tu sais, parce que je sais, tu le sais sûrement, là, que la UFC s'inspire beaucoup, là, de la WWE. T'sais, la plateforme, le WWE Network, ça a été avant là, le Fight Pass. Puis Fight Pass, je suis sûr, c'est genre complètement copié là-dessus. Là. Ils se sont dit, oh shit, ça c'est un bon modèle. Je pense que Dana, il aime bien gros Vince McMahon, là, sa manière de voir le business. Les contrats se suivent toujours un peu. Là. Il y en a un qui est à Fox, l'autre va pogner le contrat. Là, c'est, on dirait qu'ils se parlent quasiment. Là. Mais ouais, c'est un bon modèle, I guess. Là. Bravo Vince McMahon pour ça. Mais j'aimerais, c'est ça, la AEW, je suis content là, qu'il y ait un contrepoids. Là. Moi, je m'ennuie de ça, le WCW contre WWE. Ça prend de la compétition pour que ça soit bon, je pense.
Oui, puis ils sont capables d'aller chercher justement du monde que... Tu sais, comme Chris Jericho, justement. Il est hot, Chris Jericho. Tu sais, il est hot. Si t'aimes la lutte, c'est un des meilleurs lutteurs. Le gars peut faire n'importe quoi. N'importe qui est capable de s'adapter à toutes les situations. C'est le gars qui s'est probablement le plus réinventé là, dans sa carrière. À tous les 6 mois, 1 an, il arrive avec une nouvelle affaire qui devient l'affaire la plus hot dans le wrestling world quand il sort avec ça, tu sais. Puis, ils sont allés chercher toutes les... Genre The Elite, là, Cody Rhodes, Kenny Omega, les Young Bucks. Puis, là, c'est vraiment des bons lutteurs, ça.
Ouais, ouais, ouais.
Ils sont capables de... Tu sais, moi, j'ai... AEW, c'était le premier pay-per-view que j'écoutais là, quand il y a eu le Stadium Brawl Stupid. Là. Puis j'ai été vraiment surpris de comment que ces gars-là sont forts, man. C'est pas... Tu sais, j'ai jamais été assez dans la lutte pour full bien connaître toute la scène indépendante et ces affaires-là. Mm-hmm. Fait que c'était quand même... une grosse surprise, non seulement de voir le niveau de ces gars-là, mais des autres gens aussi. Ils ont quand même réussi à... Ouais. Ils sont capables de bâtir des bons petits pay-per-views que tu peux écouter du début à la fin. Puis c'est de quoi de vraiment potable. Fait que juste le fait qu'il y ait une option viable, là, c'est...
Mais j'ai l'impression qu'ils suivent justement le modèle WCW comme aller chercher des old-timers, là, comme pour attirer un peu le monde, mais en même temps aller chercher de vrais bons lutteurs comme la WCW avait fait avec les Cruiserweight, là, justement, Chris Jericho, Dean Malenko... Il y avait Eddie Guerrero là-dedans, il y avait Chris Benoit justement, tu sais, fait que on écoutait ça, puis c'est comme oh shit, ok, ces autres sont sur une autre planète là, c'est intéressant, tu sais, mais on n'avait jamais vraiment vu ça, mais ils ont l'air à prendre cette recette là, puis j'espère qu'ils vont avoir du succès avec ça, parce que c'est comme la seule chance là, qu'il y ait un renouveau de la lutte là, qui soit intéressant.
Effectivement, puis je pense que ça serait hot qu'il y ait une promotion d'MMA qui réussisse un peu.
Oui.
Avoir le succès d'un AEW, juste devenir une compétition viable. Parce que Bellator, moi j'aime bien gros Bellator. Là. Je trouve que c'est nice le produit qu'ils nous donnent, mais c'est comme leurs plus gros stars ont tendance à être des gens que le consensus est pas mal que sont finis dans l'UFC. Là. Pas dans le sens de c'est plus des bons fighters, mais c'est Rory McDonald. Là. Le gars, on l'a vu, pogner son pic dans l'UFC, passer à ça, devenir un champion du monde, mais. Pas tout à fait le devenir. Puis ça a commencé à dropper un petit peu ses performances. Puis là, whoop, il est arrivé à Bellator. Puis là, of course, il est devenu champion là-bas. Puis tout. Mais
Ouais, mais ils n'ont jamais leur break, Bellator. Là. Moi, je root pour eux autres. Là. Ben, premièrement, j'aime pas leur présentation. Là. J'aime pas comment ça look, là, Bellator, malheureusement. Puis j'aimerais ça, là, parce que je root pour eux autres. Là. J'aimerais tellement qu'il y ait un contrepoids à la UFC, mais je trouve qu'ils font ça cheapette un peu. T'sais, moi, tout l'aspect là, de la UFC, un peu à l'époque, très... très douche, là, finalement, là, tu sais, très chandail affliction, puis tout ça, là. Ça, c'est comme passé, cette époque-là, puis on dirait que Bellator sont encore pognés là-dedans, mais bref, à chaque fois qu'ils attirent une vedette, ça chie, ça marche pas, c'est pas assez, tu sais, ils connaissent pas les combats qu'ils devraient connaître. Je pense à Musashi, bon, Rory, il a bien fait, jusqu'à temps que, justement, il aille contre Musashi pour aucune bonne raison, puis qu'il se fasse démolir. Puis je sais, pourquoi je viens d'écouter ça? C'était quoi le rapport? Ça n'a pas rapport pantoute. J'ai juste écouté ça parce que c'est leurs deux plus grosses vedettes, puis ils les ont mis ensemble, là, parce que même s'ils n'étaient pas le même poids. Mais ouais, ils ont de la misère, puis même quand ils font monter des gars, ça chie tout le temps, là. Ça chie tout le temps. MVP, ça a chié. James Gallagher, ça a chié. Aaron Pico, ça a fucking chié. Oh, à chaque fois, je suis comme, oh shit, lui, ça c'est un talent intéressant, je vais suivre ça. Puis là, à chaque fois, tu te dis, ah, c'est pour ça qu'il n'était pas en UFC. Fait que c'est pour ça qu'il était à Bellator, finalement, parce qu'il est plein de trous. Je ne l'avais pas vu, mais j'imagine que la UFC l'avait vu, eux autres.
Pico, j'ai mal à la tête juste à penser à lui, là. Merde, tu peux, tu sais, c'est comme. Il est tellement plein de talent en plus, mais oh, il est juste pas né avec le meilleur menton, puis maudit qu'il a pas le style pour pas avoir un bon menton. Puis, mm-hmm. Hey, j'aurais pas aimé ça me faire knocker de même, jeune de même. Là. Trois fois.
Plutôt c'est trois fois d'affilée?
Ben, son premier combat, il s'est fait comme sonner, puis il s'est fait choquer comme tout de suite après. Fait que c'est plus un club and
okay, ouais, ouais.
Je pense après, je sais pas si c'est deux fois d'affilée ou deux fois en trois combats, mais
okay.
c'est fait allumer. Là. Pas, c'est des knockouts qui passent des highlights de l'autre dos là, pour toujours. Là. C'est pas des.
Ouais.
C'est pas des petits knockouts là, les deux fois. Là.
Puis c'est pas contre de la top qualité. Là. On parle pas des non, fighters incroyables. C'était comme beau. Du monde qui était là pour le faire bien paraître. Fait que quand tu perds ça de manière aussi violente, c'est comme ouf, tu seras pas une star, mon chum. Là. Ça se passera pas. Au moins, MVP a perdu contre Lima, je pense. C'est comme
c'est un des cinq meilleurs
un top, dans son pool. Ouais, pour aller en UFC, pas de stress. Là.
Oui, mais il se bat pour la belt dans l'UFC demain matin, man. Puis, c'est un des seuls gars. Mais ils ont eu ces gars-là. Ils ont pas été capables de les garder. Puis ils ont pas été capables de... Tu sais, comment ils ont pas réussi à monétiser Eddie Alvarez contre Michael Chandler? C'est de quoi je comprends pas. C'était le meilleur huge fight. Eddie Alvarez, il est devenu champion dans l'UFC. Là. J'ai jamais eu de doute que ce gars-là, c'était un des meilleurs au monde là, à 155 livres. Il l'avait, puis ils ont pas été capables. C'est comme... C'est tellement genre dans la mentalité des gars que si tu veux prouver que t'es le meilleur au monde, faut que t'ailles dans l'UFC, là, basically.
Ouais.
Cette mentalité-là, même s'il y a des gars qui... Ils vont faire négocier leur contrat, puis là, finalement, ils ont plus d'argent à Bellator, fait qu'ils signent avec Bellator. C'est pas encore assez une majorité pour avoir changé comme l'esprit que tu peux pas être, comme, c'est comme si tu pouvais pas être reconnu comme étant le meilleur au monde en te battant là. Fait que les gars qui ont eu, qui étaient vraiment les meilleurs au monde, ils ont pas été capables de les garder assez longtemps pour vraiment comme les aider à pousser à brand là, à l'autre niveau.
Ouais, mais je pense que autant Bellator eux-mêmes qu'autant que les fighters qui se battent à Bellator, qu'autant que les fans, on considère Bellator comme une espèce d'incubateur pour la UFC. Là, on peut faire pousser des talents là-dedans, puis on veut les voir faire le saut dans la grande ligue. Là, c'est pas, tu ne suis pas un fighter. Mettons, je sais pas, là, moi je l'ai suivi depuis le début, MVP. Là, je le trouve nice, je le trouve le fun. Mais je suis pas comme ah, si j'espère qu'un jour il va devenir champion Bellator. Non, c'est pas ça. Je me dis en le regardant, je suis comme j'espère qu'un jour il va peut-être faire le saut à UFC, j'aimerais le voir contre certains gars. T'sais. C'est pas. Il n'y a pas personne qui regarde ça en se disant comme wow, ça serait tellement un grand accomplissement s'il devenait champion Bellator. Non, malheureusement. Je pense que c'est cette mentalité-là, il va falloir qu'il change, il va falloir, je sais pas comment, là. Mais il va falloir qu'ils soient capables de donner du lustre à leur promotion eux-mêmes. On dirait qu'ils se dévaluent eux-mêmes des fois, je trouve.
Ouais, exact. Tu l'as dit, Bellator, c'est la place que soit ta carrière naît là puis on veut te voir aller ailleurs, ou ta carrière va littéralement mourir là après que t'as pas
la
mal accompli.
Senior.
Ouais, c'est ça. Puis ça, je pense que ça joue un gros rôle tout dans le fait que Douglas Lima n'est pas encore une méga superstar. Parce que Douglas Lima, même s'il est dans le meilleur combat de la soirée, se retrouve genre dans le co-main event de Fedor contre X.
Ouais.
Ou un combat quelconque de Chael Sonnen ou un combat quelconque de Tito Ortiz. Man.
Mais moi, je pense qu'au début, c'était bon pour eux autres, là, les vieux fighters là, un peu finis là, qui viennent se battre, parce que ça peut avoir un espèce de pouvoir d'attraction. Tu sais, moi, Fedor, j'ai comme « Ah ouais, voilà, ici, je vais checker ça, il est rendu où? » Tu sais, même s'il est rendu vraiment à un niveau moyen, ça m'intéresse quand même, dépendamment de contre qui vous le mettez. Mais ça peut aussi se revirer contre toi, puis que tu aies des affaires comme Rampage Jackson de son dernier combat, c'est comme « Toi, t'es pas allé dans un gym, mon chum, là. »
Ça fait 5 ans que ça ne tombe plus. Mais genre, paye, on va me battre pareil. Je vois pas
hey man, il était fat, il n'y avait rien. Il est allé se faire knocker. C'est comme, tu sais, puis c'est pas bon, c'est un main event. Puis moi, j'étais comme, ah, crème, je vais le checker. Je vous fais confiance que ça va être un combat qui a de l'allure. Là, tu checkes ça, c'est comme, OK, j'ai pas payé, mais vous m'avez fourré pareil. Là. C'est comme, OK, c'est ça. Pourquoi vous mettez ça à la TV?
C'est genre, ce temps-là, il n'y a personne qui va me le rembourser. Quand je vais mourir, là, je ne vais pas me pointer au gate et dire « Ah non, OK, c'est ah, t'es écouté, c'était bel attendre-là. Ah mon gars, je te donne 3 heures de plus. »
Mais c'est parce que, tu sais, comme n'importe quelle carte aussi, souvent, ça finit tard. Là, je suis comme, j'attends ça là, toute la soirée. Bon, je vais voir Rampage. Là. Il est rendu où? Là? Il rentre dans l'octobre.
L'attente n'est pas bonne dans Bellator. C'est ça le problème.
Ah oui, c'est long. Hein? C'est fucking long, ces cartes-là. Là. Eux autres sont très box là-dessus. Là. Ils n'ont pas compris comment enchaîner ça comme il faut. Mais ouais, puis là, il rentre, puis là, t'es comme, man, il est minuit et demi, je suis en train de regarder le gros Rampage, là, qui, ça y tente pas pantoute. Bon, il s'est fait knocker, moi, fermé ça, m'aller me coucher. Pourquoi j'ai fait ça? j'ai pas eu une bonne expérience avec vous autres, Bellator, ce soir, fait que j'ai pas envie tant que ça de le répéter, mais j'espère qu'ils vont mieux faire les choses, puis qu'ils vont être capables. Ils ont l'air de bien payer quand même leur star, là, de ce que j'ai compris, là. Si les gars ont fait le jump, ça doit être qu'ils ont des meilleurs contrats.
Là. Ah, pour ça, ils ont le budget, mais. Je sais pas jusqu'à quel point c'est un... Tu sais, ils ont du financement, mais je sais pas jusqu'à quel point c'est une opération qui rapporte beaucoup de profit. Là.
Ouais.
Même, tu sais, c'est... Je pense que c'est ça le plus gros problème en MMA en général, c'est qu'en des... T'sais, l'UFC ont beaucoup d'argent, mais veulent pas donner à personne. Puis en dehors de l'UFC, il y a juste pas beaucoup d'argent.
Ouais.
Comme la PFL, c'est bon, mais je pense jamais que cette ligue-là peut... T'sais, rivaliser avec le UFC et tout là parce que c'est weird, man. C'est juste weird comme ligue. Le format saison régulière, série éliminatoire, c'est nice de la manière que c'est présenté et tout, mais il y a trop de blessures de ces affaires nowhere qui arrivent dans le MMA à base. Puis ce format-là, le fait qu'il y a juste 12 gars dans la division, il y a des rematchs, man. C'est incroyable. Je pense justement l'année passée, les 145 livres. De Lance Palmer, je pense son premier combat, il se pognait contre un gars qui s'appelait Alex Gilpin. Là, il l'a battu. Il a battu un autre dude. Il s'est retrouvé pas mal le plus haut rank pour les playoffs. Fait qu'il a pogné dans le premier round des playoffs Alex Gilpin, qui avait gagné son autre fight. Fait qu'il s'est barely qualifié. Fait qu'il a battu contre un des meilleurs. Fait que là, il l'a rebattu. Puis là, il s'est rendu en finale. Mais le gars qui était supposé se battre contre en finale a genre testé positif pour un paquet de sauces différentes. Okay. C'est d'ailleurs assez impressionnant le nombre de substances différentes sur lesquelles il a testé positif. Là. Genre, mais... Fait que là, ils ont appelé les deux demi-finalistes pour savoir lequel des deux qui était prête. Puis ça donnait que celui qui était le plus prêt des trois, des deux, ben c'était Alex Gilpin. Fait que la finale, ça a été Lance Palmer contre Alex Gilpin 3. Puis le gars s'était fait laver deux fois. Là. Fait que c'était comme... Il n'y avait aucun enjeu dans ce combat-là.
Mais ça lui a donné 1 million.
Pour la deuxième année consécutive.
Ah, deuxième année qu'on crime, c'est cool ça. J'ai pas beaucoup suivi PFL, des fois du coin de l'œil, là, mais c'est cool pour les fighters qui ont confiance en leurs moyens. Là, comme je pense, Oli Aubin Mercier, je pense que c'est un bon move. S'il peut aller chercher 1 million, là, c'est nice pour les gars là, quand même là, qui ont travaillé fort toute leur vie.
C'est parfait pour lui parce que Oli. Il s'est rendu dans le top 15 là, dans l'UFC puis tout. Puis À 155 livres, il y a vraiment une bonne division. Là. Ils ont leur champion, c'est un genre de petit Khabib. Là. C'est la version brésilienne de Khabib. Là. Okay. C'est un assistant. Le gars, il ne te laisse pas un pouce d'espace. Puis il va te clincher dans la cage, rester accroché après toi, coûte que coûte, puis te take down 31 fois dans le combat.
C'est Jesus. Pas un fan de ça. La nouvelle ère de la lutte, j'aime ça, la lutte, là, mais si ça sert à quelque chose... Là... Je risque que je ne suis pas un fan, j'ai vraiment de la misère. Mais je les écoute pareil, là, puis j'essaie d'apprécier l'art de cette patente-là, là, mais moi, je ne serais pas, je l'achèterais pas mon t-shirt de Kamaru Usman. Je te confirme ça.
Mais non, c'est, moi, je suis un grappler, je ne veux pas. Fait que j'aime voir les belles techniques et tout, mais c'est vrai qu'il y a des gars qui ne s'aident vraiment pas. Comme Khabib, moi, je trippe. C'est probablement mon combattant que j'aime le plus à regarder, mais c'est parce qu'il y a tellement comme des intentions là, derrière. C'est
ouais.
Que, puis, tu sais, man, c'est magnifique ce qu'il fait. Là. J'ai jamais vu un gars être debout, puis une milliseconde après, il est rendu dans tes jambes, son shot était tellement rapide,
c'est
bien timé. Puis le gars, il chain wrestle comme un malade dans la tête, là. Passe sur un single, puis t'as même pas le temps de défendre le single qui est sur un double. Puis si tu le lis, ben, il revient sur un single, pogne ton dos. C'est écœurant ce qu'il fait.
Puis il travaille à terre, là,
ouais,
c'est important.
Sol,
là.
Il casse la gueule, man.
Ouais.
Fait la gueule, puis il te parle, puis il essaie de te convaincre d'abandonner pendant qu'il te verge dessus. Ça, c'est hot, mais tu sais, comme tu dis, moi non plus, je pense pas que je vais m'acheter un fight kit de Kamaru Usman. Là.
Ouais, mais ça, là, tout le... J'en ai moins vu récemment, là, parce que bon, j'imagine que c'est un plus petit octogone là, depuis le truc de COVID, fait que c'est plus. On dirait que c'est plus. Ils se battent dans une cabine téléphonique, là, mais. Il y a eu une mode à un moment donné, ça clinchait, là, ça se grindait, là, ça cage. C'est comme, OK, là, oui, là, en ce moment, tu de la position dominante, là, mais tu fais rien avec. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien de la misère avec ça. Colby Covington, je sais pas. Mais les gars sont capables de striker aussi là, maintenant, ce qui est intéressant. Là, Usman contre Covington, c'était quand même c'était tout un brawl entre deux wrestlers.
C'était vraiment surprenant, ce combat-là. Mais des fois, ces gars-là, ils s'annulent juste.
Ouais, c'est
comme,
ça.
Ah, j'ai vraiment un très bon lutteur devant moi, même si je suis un très bon lutteur. Donc, je pense pas le takedown. Là, ça fait juste un style de stand-up fight de mon gars. Mais tu le sais que ces gars-là. Comme là, ça va être intéressant, là, par exemple, Kamaru Usman contre Gilbert Burns.
Ouais, Burns, tabarnak.
Ouais, man.
Moi, je me rappelle, je pense que c'est le combat juste avant Olivier. Burns, il a eu une mauvaise coupe de poids, puis c'était fait geler. Là, je me rappelle même plus contre qui, mais c'était fait geler.
Dan O'Kerr, je pense.
Ah ouais, évidemment. Dan O'Kerr, qui est quand même très bon, mais il s'était fait genre geler là, rapidement. Puis j'étais comme, oh, ce gars-là, il est... Il gère peut-être mal ses pertes de poids ou peut-être qu'il n'y a pas le niveau, tout ça. Puis bon, il a gagné contre Ali. Puis depuis ce temps-là, man, c'est vraiment amélioré à chaque fois. Mais je ne pensais pas qu'il était à ce niveau-là, je t'avoue. Quand la manière qu'il a dominé Tyron Woodley, j'étais comme, oh, OK. All right.
Il est rendu très bon. Tyron Woodley, ce gars-là, Tyron Woodley, par exemple.
Ouais, non, c'est sûr.
C'est comme si c'est un maître pour genre se back-up contre la cage lui-même. Puis il est un peu pris là, puis là, oh shit, qu'est-ce que je fais? Puis il fait pas grand-chose. Mais quand il réussit à faire marcher ça, il réussit. Mais contre Burns, ça a pas marché. Je ne sais pas, par exemple, s'il est comme au niveau de... Ce qui est vraiment fucké, ce combat-là, c'est qu'ils s'entraînent ensemble.
Ouais, c'est ça, ouais, j'ai vu ça.
Le même coach, puis tout. Fait que ça va être un... D'après moi, c'est le genre de fight qui
ils
va finir... C'est un genre... Ça va finir par stand and bang, ce combat-là.
Ah,
parce
ouais, je pense.
Que... Ouais, ben, genre Gilbert Burns... Tu ne veux pas aller au sol avec. C'est,
ah ouais, à ce point-là, son jiu-jitsu.
Non, c'est un champion du monde là, de jiu-jitsu.
Ouais, c'est ça qu'Olivier me disait. Là.
Vraiment, là, c'est. Puis, man, on s'entend que autant lui que Kamaru Usman, ils ont des shapes, mettons, suspects, disons-le comme ça. Là. Ces gars-là, ils ont tombé dans quelque chose de popé quand ils étaient jeunes parce que, mon Dieu, je ne sais pas trop. Tu sais, Gilbert Burns, juste le combat contre Oli. Oli, là, il est. Très, très fort physiquement pour un gars de cette shape-là, dans cette division-là. Puis, man, c'est fait roffer par Gilbert. Là, que, comme c'était même pas le même, on dirait, les mêmes capacités athlétiques entre les deux. Puis le fait que Oli, c'est un gars qui est déjà à base un bon athlète. Puis qui, c'est ça qui fait qu'il est capable de faire marcher sa game là, beaucoup.
Ouais.
C'est incroyable, là, Gilbert Burns. Dans le fond, c'est un super athlète avec Ah oh, ouais, c'est ça. Un super athlète, super jacké, avec comme un background de jiu-jitsu que peu de gens ont, puis qui est rendu avec des mains. Puis Cameron,
ouais, son striking est rendu fou, là. Oh, sérieusement. Ouais, il est slick, puis il est brillant, puis il set des traps aussi, là. Tu sais, je l'avais pas vu à ce niveau-là, moi. Puis contre Woodley, tu sais, Woodley, je considère que c'est un bon striker pareil, là. C'est un counter-striker, mais quand même, tu sais, il est capable de placer ses shots. Tu sais, il n'y a rien fait, là. Rien fait pantoute. Fait que, je sais pas, contre Kamaru Usman, pour vrai, s'il est capable d'annuler le wrestling de Kamaru, puis que ça stand and bang, comme tu dis, crème, je lui donne des bonnes chances quand même.
Ouais, Moutou, parce que c'était vraiment serré contre Covington. Puis Usman, il y a quelque chose de spécial dans lui, mais faut-tu le faire sortir? Ouais. C'est pour ça que je le trouve tellement frustrant, là.
Ouais.
Parce que sinon, tu sais, il y a tellement, ce gars-là pourrait tellement être le meilleur fighter au monde, là. Il pourrait tellement être genre écœurant, puis excitant, puis, mais faut que tu sortes ça dans lui, c'est comme pas de quoi qui est naturel. Mais mm-hmm. si tu le pousses là, ça donne un fight comme contre Covington, puis c'est très bon. Mais si tu le pousses pas là, va t'à côté dans la cage, mon gars, va te grinder, va te sacrer des petits coups de genoux, là, juste pour dire qu'il score, là, puis...
Exact.
Ça devient assez tedious des fois, là.
Ouais, ça, c'est le style le plus frustrant. Hey, toi, qu'est-ce que t'en penses de Justin Gaethje contre Khabib?
Oh, man, je suis tellement déplu, là.
Ah ouais? Toi, tu voulais Tony?
Ça fait 5 ans que je veux ce fight-là, man. Ça fait littéralement 5 ans. Puis, écoute, la chose, il y a une chose qui me fait me poser des questions. Puis c'est fou comment c'est la nouvelle mode, là. C'est le move du moment. Mais Justin Gaethje, ça fait tellement longtemps qu'il fait ça. Les fameux calf kicks.
Ouais.
S'il pogne Khabib coupe de fois là-dessus, et ça sera pas le même fight, man. Parce que c'est une jambe pétée, c'est dur de shooter des bons takedowns, c'est dur de bien chain wrestle. Puis Khabib, sa seule faille, c'est justement en début de round, en début de combat, quand t'es debout contre lui, c'est pas la personne qui est la plus calculée dans la manière qu'il va t'approcher dans le but de t'amener au sol. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent le fait que, parce que Justin Gaethje, c'est un All-American wrestler là, au collège. Le gars s'ostine pour ne pas lutter dans ses combats parce qu'il sait que c'est que le monde trouve ça plate, surtout. Tu sais, lutter pour lutter, là. Moi, j'aime ça, mais comme mettre quelqu'un dans la cage puis grinder, tout, c'est plate. Là. Même moi, je n'ai juste pas des combats que j'aime checker. Puis lui, il sait très bien qu'il ne fera jamais ça. Mais il y a beaucoup de monde qui disent, ah, mais vu que c'est un bon lutteur, il va peut-être pouvoir défendre les takedowns de Khabib. Mais ça, défendre les takedowns de Khabib, c'est la recette parfaite pour passer le 25 minutes le dos contre la cage.
Ouais, t'as raison. Mais j'ai écouté, je sais pas si t'as écouté le podcast de Joe Rogan avec Justin Gaethje puis son coach.
Ouais, puis son coach. Trevor Whitman est tellement
incroyable. Trevor Whitman, ouais, non, il est écœurant, là, qui fait ses propres pads puis ses propres gants. Il est vraiment craqué. Mais moi, je savais pas ça. Justin Gaethje disait que lui, sa spécialité, c'était vraiment... C'était un wrestler défensif, là. T'sais, lui, les takedown defense, comme c'était sa spécialité. Mais en même temps, je veux dire, il doit pas la pratiquer tant que ça, sa lutte, là. Il a l'air de plus pratiquer son striking des dernières années. Fait que peut-être qu'il y a un peu de rattrapage à faire à ce niveau-là. Mais j'ai hâte de voir s'il est capable de... S'il est capable d'avoir un takedown defense efficace puis de break les attaques puis de ramener ça au striking. Moi, je pense que c'est un des mieux bâtis pour battre Khabib. Là, moi, je n'étais pas si high que ça sur Tony Ferguson pour battre Khabib. Je voulais voir ce combat-là, mais je n'étais pas à peu près certain qu'il allait perdre. Je ne trouve pas que c'est une bonne stratégie aller au sol et essayer de lancer des attaques sur ton dos là, avec Khabib. Je sais que c'est ça qu'il voulait faire, là, mais je pense pas que c'était une bonne idée tant que ça. Là.
Et pour une raison ou une autre, je pense que c'est la meilleure manière, moi.
Tu penses?
Ouais. Parce, écoute, les Russes qui sont très bons en lutte ont tendance à perdre par soumission. Je sais que Khabib est complètement différent là, de tous les autres. Là. C'est un fighter qui est absolument unique. Mais c'est sûr que Gaethje a la même caractéristique fuckée que Tony Ferguson. Que tu vas pas le casser, ce gars-là. Puis c'est ça qui me faisait vraiment douter du match-up, c'est que Tony Ferguson allait être le seul gars qui allait vraiment être super content de passer 25 minutes à manger des coups de coude d'en face, puis être busté, puis saigné partout, puis avoir l'air genre du big gars démoli. Mais il allait jamais se décourager, il allait avoir du fun, puis il allait toujours continuer d'essayer ses hosties de niaiseries sur son dos. Puis c'est comme, j'ai pas vu personne être capable d'empêcher Khabib de les amener sur leur dos puis de les battre là. Fait que je me dis, tant qu'à juste être pas capable de pas se battre dans ce style de combat-là, j'aime mieux la personne qui me semble la mieux adaptée à, genre, thrive dans ce style de combat-là. Puis selon moi, c'était Tony Ferguson. Mais, tu sais, Gaethje, il a la même caractéristique que lui. Que d'après moi, s'il se fait dominer là, pendant 4 rounds par Khabib, il va pas sortir au 5e round, la main basse. Il va quand même essayer de le knocker comme un malade au début du round. Puis, oui, il y a vraiment genre de la dynamite dans les mains. Puis oui, c'est réussi à placer une coupe de calf kick. Puis, tu sais, juste se mettre son basic, là, vraiment, puis placer ses kicks jusqu'à temps qu'il feel que, oh, là, Khabib, il a vraiment une jambe pétée, puis ça va être difficile pour lui de travailler ses takedowns de là. Puis là, à partir de là, il va pouvoir... Parce qu'il y a vraiment un trait à la Joanna Jędrzejczyk de punir les gens quand ils essayent de le takedown.
Ouais,
c'est une
des
meilleures affaires. Avoir une bonne takedown defense, c'est important. Mais il faut que tu sois capable de faire payer le gars. Il faut que le gars, à chaque fois qu'il essaie de te takedown, que tu y fasses assez mal pour que ça s'aille mettre dans la tête que si je le takedown, je vais avoir mal. Fait que là, il est plus frileux à te takedown. Puis Khabib ne sera jamais frileux à le takedown. Fait qu'il faut qu'il le fasse payer dans ces positions-là. Puis il est capable. Fait que je pense que oui, c'est un bon style match-up pour battre Khabib. Je ne sais pas si... Écoute, genre, je vais te le dire, là, je sais que c'est du footage de gym et tout.
Ouais.
Mais le fait que j'ai déjà vu genre DC lutter avec Khabib, puis Khabib l'a juste amené sur son cul, comme si c'était pas genre un Olympien heavyweight en lutte. Là.
Ouais.
C'est ça qui me fait dire que ça va, ça va vraiment être dur pour quelqu'un d'empêcher Khabib de pas le mettre sur son cul quand même DC est pas capable de rester debout sur ce gars-là.
Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois, Khabib, c'est une minute là, de te... Une minute, knock-lé! Puis après ça, ben passe la pire soirée de ta vie. Là. Mais tu sais, Michael Johnson avait été capable de le connecter. Bon, il n'était pas capable de le finir. Là. C'est du fameux Johnson. Là, comme à chaque fois, il connaît un bon début de combat. Puis après ça, ça se passe très mal. Mais écoute, il va avoir cette minute-là. Moi, puis peut-être que je pense que justement, Justin Gaethje, c'est le genre de gars qui va pouvoir peut-être allonger sa minute un peu. Là, tu sais. Peut-être un petit peu de takedown defense puis allonger ça. Je pense, je le vois pas gagnant, mais je pense que c'est lui qui a les meilleurs outils pour être capable de peut-être... en tout cas, moi, je trouve ça bien intriguant. Je trouve ça plus intriguant que Tony. Puis, tu sais, je veux dire, Tony, à la fin du combat contre Gaethje, je me suis dit, ah, moi, je pense pas qu'il y aurait eu grand-chance contre Khabib. Ce Tony-là, il est rendu trop vieux, là, malheureusement.
Non, ce soir-là, ça allait pas le faire. Là, la performance qui est sortie, ça allait vraiment pas le faire, mais... Ouais, comme tu dis, Gaethje, c'est il a vraiment la caractéristique de ce gars-là, que tu le battes ou que tu le battes pas, tu vas avoir mal. Ou que tu sois prêt à avoir très, très mal dans ce combat-là. Tu sais, les gars qui l'ont battu, man, ils en ont souffert une shot là, avant de le battre.
Ouais.
Pour ça, l'affaire qui me fait le plus capoter, puis c'est un match-up là, qu'on entendait parler récemment, juste par le fait même que ce petit gars-là il existe, mais tellement de monde qui disait... Hey, Connor contre Gaethje. Je pense que Connor, il a un bon style pour genre le knocker et tout. Là. Genre, gros, aïe, t'as-tu déjà vu quelqu'un knocker Justin Gaethje avant d'y avoir littéralement lancé 294 coups de poing par la tête?
Ouais. Ouais, mais moi, j'avais beaucoup vu ça, en fait, moi, sur les réseaux sociaux. Bon, je suis bien des gens qui suivent les MMA et qui connaissent ça beaucoup. Puis le consensus était comme, ah, il est très brillant là-dessus, Connor. C'est un style parfait pour lui. Justin, il va échanger, puis Connor, il a un striking supérieur, comme « fine », mais Connor, il veut-tu, lui, genre, être buzzé dans un combat? Pas certain, je pense mais pas je pense que c'est le genre de gars qui se fait buzzer puis qui revient. Tu sais, faut que t'ailles ça en toi, là, contre Gaethje, puis j'ai, tu sais, je veux dire, Connor, c'est plate à dire, mais c'est un gars qui abandonne pour moi, là, tu sais, aussitôt que ça va mal... T'sais, il abandonne sur un neck crank, il a abandonné aussitôt que Nate le pincé. Il aime pas ça. Là, il a pas un gros gas tank. Fait que, je pense pas que c'est un si bon match-up que ça, mais je pensais que j'étais tout seul à penser ça. Je suis content que tu penses pareil.
C'est un nightmare match-up, mon gars. Genre nightmare. Tu sais, t'es comme Justin Gaethje ne s'est jamais... il a perdu deux fois. Oui, il s'est fait finir, genre, mais il s'est jamais fait knocker. Là, il s'est fait comme TKO après avoir mangé tout le dommage de l'humanité. Puis c'est comme jamais arrivé avant la fin du troisième round d'un combat. T'as-tu déjà vu Connor avoir encore l'air d'un humain au troisième round d'un combat. Même un combat qui performe bien, là, ce gars-là, mm-hmm. il gaz out, il cherche un way out dès que ça va pas bien. Puis, comme tu dis, je pense pas que c'est le gars qui est capable de manger sa volée puis de bite son time puis wow, de ressortir avec quelque chose plus tard.
Ouais.
C'est un gars de premier round. S'il te pince au premier round, il peut pas mal knocker n'importe qui, sauf Justin Gaethje.
Ouais.
Madame mentale de même que...
Sauf Khabib aussi.
Khabib, c'est...
Mais ça, j'ai réécouté récemment Khabib contre Conor, puis j'avais pas, peut-être pas vu ça live parce que j'étais dans l'excitation du combat, mais Khabib, là, la première minute, c'est ridicule comment il sauve, là. Il est sur le bord de la cage de même, c'est du bas de tous les sens, il a la chienne pour mourir. Puis aussitôt qu'il voit, tu sais, il lance un peu de striking juste pour dire que, puis aussitôt qu'il peut, il va sur le takedown, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça va être à peu près la même chose contre Justin Gaethje, mais j'ai l'impression que si Justin Gaethje est capable de rallonger cette minute-là où Khabib, il est comme « Oh non, un striker, j'aime pas ça », on pourrait être surpris, tu sais, parce que après ça, on s'est juste rappelé que Khabib l'a envoyé au sol, le corner, puis tout ça. C'était un corner fatigué qui faisait à peu près n'importe quoi. Là. Mais c'était très surprenant pareil, quand même. C'était très impressionnant de sa part. Mais ouais, moi, je suis bien intrigué de ce combat-là, puis c'est pas mal celui qui m'excite le plus dans la prochaine année.
Ah, ben définitivement. Là. Même si mon dream fight, ça allait toujours être Tony Khabib, là, mais je suis 100% conscient que c'est comme, c'est mort, ça. C'est...
Ouais.
Même si Tony gagnera une coupe de fight,
ouais.
ça ne sera plus jamais ce que ça pouvait être. Si ça
C'est un dream fight du passé rendu là. Parce que maintenant, tu regardes Tony, tu dis « Ah non, je pense pas que ce Tony-là a des chances, malheureusement. » Avant, à son prime, il avait des bonnes chances, mais là, avec des blessures aux genoux, puis s'est fait maganer, s'est fait dropper contre Pettis, puis tout ça, c'est comme ça, ça va devenir difficile.
Non, vraiment, puis non, c'est de loin le combat le plus excitant, parce que là, c'est fucké, c'est temps, comme tu disais, en plus pour revenir au genre de problème de contrat, là, des gars là, qui veulent tout plus d'argent, ça fait que même, on se retrouve avec un roster vraiment limité, puis genre, je sais pas, comme je sais que les fights, justement, ils ont annoncé Fight Island là, hier, c'est tellement ridicule.
C'était à Abu Dhabi.
C'est littéralement à Abu Dhabi où ils ont déjà fait des combats. Là, puis...
c'est pas un island, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça.
Ben non, c'est ça. C'est la place où il y a toujours eu toutes les fights qui ont eu lieu. T'sais, la même place qu'il y a eu Khabib contre Poirier. C'est que ça va avoir lieu. Mais les combats qu'ils ont annoncés, man, comme. Mettons, Holloway contre Volkanovski 2.
Ouais, c'est
correct. Je comprends qu'Holloway est un bon champion. Si tu veux donner un rematch automatique, c'est pas moi qui vais s'ostiner. Mais man, tu sais, c'est pas ce combat-là qui va me faire me mettre une alarme là, dans mon sel pour être sûr que je manque pas ça. C'est José Aldo qui va se battre pour une belt.
Ça n'a pas rapport.
Ça n'a aucun rapport. Le main event, justement, je pense que c'est Usman contre Burns. C'est une bonne carte, 3 title fights, mais tu sais, rien pour l'affaire la plus épique sur cette carte-là, je te le dis tout de suite, là, ça va être Cyril Gane.
J'ai pas vu, il se bat contre qui?
Shamil Abdourakhimov.
OK.
Un quelconque gars qui est somehow comme 11e au monde, là, je pense.
Ah ouais.
Fait que c'est la porte
d'entrée. Ouais, Cyril, il est nice.
Ah, oh, ce gars-là, man, c'est tellement très.
C'est un stud.
Oh ouais. Puis il y a tellement, avec son surnom, peut-être le bon gamin, là, c'est tellement à lui. Là. C'est la personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui m'apparaissait le moins comme un Parisien.
Là. Ah ouais, hein?
C'est
jamais entendu parler, en fait.
Oh, c'est incroyable, là, genre. Je vais toujours me... Ça, c'est une drôle d'histoire. Là. Je vais toujours me rappeler, la première fois que je l'ai vu, il s'en allait se battre contre Adam Dajka, là, qui est un de mes bons amis. Justement avec Adam... Au centre vidéo Tron, il y a une conférence de presse puis tout, puis là je l'ai vu rentrer, man, puis je me rappelle de m'être dit oh sacrament, man.
oh
sacrament, c'est qui ça, câlisse? Puis tu sais, t'as le gars qui rentre là, puis il fait littéralement le tour de la pièce, puis serre la main, ouais, bonjour, moi c'est Cyril, ouais, ravi de vous rencontrer, puis genre Chris Matt se mate avec tout le monde tranquille, pas un gars de beaucoup de mots, genre, mais tu sais, il y a pas le la gimmick là, du français typique de Paris, là, genre ultra chiant. Là, ben, putain, qu'est-ce que c'est?
Ouais.
Tu sais, vraiment, vraiment pas. Puis, il est hot. Puis, ce gars-là, man, ça va être... Écoute, une coupe de ligue là, en haut de pas mal tout ce que je vois là, au niveau des poids.
Ouais, il est bien excitant.
Ce gars-là peut pogner là, un Stipe Miocic demain matin. Puis je te dis pas qu'il va gagner parce qu'il n'y a pas l'expérience dans l'octogone d'un Stipe. Mais Cyril, là, il va dominer la division heavyweight, puis ça va vraiment être quelque chose.
Ah ouais, même Francis, même Ngannou, qui est un autre Français bien smart.
Je pense que c'est des anciens teammates. Là.
Ouais.
Francis n'est plus vraiment en France, mais c'est comme...
Non, je comprends.
C'était France, Fernand Lopez, tout, c'est son coach. Fait que, tu sais, je pense pas qu'ils veulent vraiment se battre ensemble, mais Cyril a dit, si c'est pour une ceinture, on va le faire. Mais,
okay.
Tu sais, Francis Ngannou, c'est Deontay Wilder.
Ah oh, ouais, 100%.
C'est... Puis, genre, j'aime son approche, là, des derniers combats, même si c'est pas vraiment beau ce qu'il fait.
Ça,
c'est comme, moi, je fais juste courir après toi en signant des Vanderlei Silva hook. Puis je le sais que s'il y en a un qui connecte, ben tu vas littéralement mourir.
You're dead!
Mais tu sais, Cyril, man, ce gars-là, pour l'avoir vu bouger là, devant moi, là, souvent, man, ce gars-là bouge comme un 170 livres.
Ah, il est technique, il est slick.
Littéralement, ouais. Wonderboy Thompson, si Wonderboy avait comme un peu de méchanceté dans lui, puis il voulait vraiment, tu sais, faire mal aux gens contre qui il se battait. Puis tu parles d'un poids lourd, là. Fait que, d'après moi, Cyril, c'est le genre de gars qui pourrait être vraiment sur son bicycle puis rester loin de Francis Ngannou puis juste ses pick at him là, pendant 15 minutes puis s'assurer de l'outpointer parce qu'il est comme autant capable de faire ça qu'il est capable de rentrer puis bulldozer quelqu'un là, comme un fou.
Ouais, je comprends, mais tu, en tout cas, j'ai vu beaucoup de critiques de Francis Ngannou après son combat contre le gars, je suis pas capable de dire son nom, là, Rosenstruck.
Ouais.
J'ai vu beaucoup de critiques comme la technique est pas bonne, c'est un peu n'importe quoi, puis ça, mais je pense que c'est beaucoup aussi la force de Ngannou, c'est qu'il ose lancer des combinaisons puis des coups que tu vois pas nécessairement souvent, puis qui sont pas nécessairement dans. Il n'est pas bien positionné, puis ça, mais il a le power pour ça. Lui, son but, c'est juste dans l'ND1, puis crime. Ça doit être vraiment intimidant, là, un gars aussi imprévisible. Tu sais, c'est pas. C'est pas genre « Ah, je reconnais ce que tu es en train de faire, tu me fais un 1-2 kick, là, lui, c'est genre hey, « qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ouch! OK, bon, boum, je suis mort. » Tu sais, c'est pas ce qui se passe. Fait que je pense une bonne force pour lui. T'sais, même Stipe, là, qui l'a battu, là, qui était beaucoup plus technique, puis qui était capable de l'amener au sol, puis tout ça, hey, il a mangé une sacrament de volée, là, Stipe, là. Il a mangé des coups, là, puis je pense que c'est vraiment à cause de ça qu'il s'est fait knocker après par DC, là. Il s'était fait ramollir un peu, je pense. Là. Fait que c'est un gars qui, même s'il n'y a pas la technique, je pense qu'il y a une petite mâchoire, je pense aussi, là, on l'a vu contre Stipe.
Oui, c'est ça.
Fait qu'il faut que tu tiennes loin, faut que tu évites ses coups, puis même si tu réussis à en placer au travers, il va les prendre. Il n'y a pas un gros gas tank non plus, là. Fait que c'est peut-être ça comme solution, là, mais tabarnouche que j'aimerais pas me battre contre. Là. Un animal, tu sais, il est vraiment intense.
C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une technique incroyable, mais tu parles de la division poids lourd en MMA, là. Littéralement, ouais. Derrick Lewis qui s'est déjà battu pour une belt, là.
Ouais, non, c'est
donc
ça.
On s'entend que c'est pas là que. C'est pas 155 livres, là. T'as pas besoin d'être un fin technicien pour arriver là, puis tu sais, péter à gueule un dude, man. C'est littéralement la division où tu peux te permettre d'être le plus poche. Mais moindrement que tu as du power et que tu es tough, ben, tu vas aller super loin.
Mais je pense que Francis aussi, là, c'est quelque chose qu'il faut lui donner. C'est vraiment un talent naturel. Là. Il apprend rapidement puis il a des qualités athlétiques absolument incroyables. Je ne sais pas si tu as vu la petite mini-vidéo où il est avec Ryan Garcia. Là. Ryan Garcia, qui est un boxeur, boxeur de Golden Boy.
Ouais.
Il est super, c'est le gars le plus quick que j'ai vu, le Ryan Garcia. Là, il est le fun d'écouter juste s'entraîner là, avec un petit speed bag. Il est tellement rapide. Il est quick. Il faisait des uppercuts en shadow. Puis Ngannou le suit à côté. Il est capable d'être presque aussi rapide que lui. C'est assez impressionnant pour un gros dude comme ça. Fait que je trouve qu'il y a des qualités athlétiques folles. S'il est capable d'ajuster des petits trucs de combat en combat, je me rappelle pas c'était quoi le combat où il avait appris c'était quoi un kimura dans le vestiaire puis il était le faire sur l'octogone après.
Il était debout, man! Genre, le gars, le pognon takedown, il a fait...
Bro. Je viens d'apprendre ça, moi, l'essayer.
Il pète un kimura debout, t'as le fini, man! Ouais.
Ben, tu sais, c'est un freak, là. Il est fort, en plus, j'imagine, là. Fait que, il essaye les affaires, là, de manière très candide, finalement. « Hey, moi, c'est ça, il m'a l'appris. Ouais, ben, all right, c'est bon, t'es dead. » Fait que, il y a cette naïveté-là qui est une grande force, je pense. C'est pas un gars qui est... Bon, j'allais dire, c'est pas un gars qui est gun-shy, mais il était gun-shy en esti avec Derrick Lewis. Là.
Oh,
en général, il l'est pas.
Ça a longtemps de celui-là.
Ouais, ouais, ouais.
C'est... Il y a souvent... Comme ça avait fait ça à Henry Cejudo aussi. Il y a souvent, ouais. Ça arrive souvent à quelqu'un que, ton il se rend son premier title shot, puis il y a beaucoup d'espoir dans cette personne-là, puis oh, ça marche pas comme il veut. Son combat d'après, souvent tu vois les effets de ça. Puis Cejudo, ça avait fait ça, il avait perdu contre Demetrius Johnson.
Mm-hmm.
Suite son combat, là. Ouais, un petit coup de genou dans le ventre, man, ça fait plier en deux, là. Puis le combat tout de suite après, c'était battu contre Joseph Benavidez, qui est quand même pas un step down. On s'entend, c'est...
Non, c'est ça, c'est pas un jump.
Puis il était vraiment plus hésitant dans ce combat-là. Tu voyais qu'il voulait apporter des modifications à son style un peu, mais c'était pas tout encore rentré à 100% là, dans sa game. Puis il a perdu par décision partagée ce combat-là. Puis là, je me rappelle, là, on était là, hey, deux défaites consécutives, hein, je sais pas ce qui va arriver avec ses Cejudo. Puis man, après ça, c'est là qu'il a pété Wilson Rice avec une des mains droites, là, un des 1-2 les plus rapides que j'ai vu de toute ma vie. Puis après, c'est devenu, man, le gars qui... que c'est devenu, man, puis...
Ouais, non, mais ça, c'est... Je suis bien impressionné de ce gars-là, parce que moi aussi, comme toi, je l'ai suivi, puis je l'avais vu perdre contre DJ, puis contre Benavidez, puis j'étais comme, bon... Il est dans le top 5 de cette division-là, mais il fera jamais plus que ça, fait que... Mais, man, il est devenu une machine. C'est quoi cette affaire-là? Moi, c'est vraiment le combat contre Marlon Moraes que j'ai fait comme... Tabarnak, dude! OK, toi, t'es sur une autre planète, là. C'est pas la même planète que ces gars-là. Là.
Ouais.
C'est vraiment... C'est toute une machine. Là. Il est capable d'en prendre puis d'en donner. Tu sais, moi, je pensais vraiment que c'était un flou, là, son combat contre Dillashaw. Je pensais, Dillashaw, il y a une perte de poids là, qui était pas possible. Mais non, il m'a vraiment impressionné depuis.
Ouais, puis il vient, là, justement, j'écoutais ça cette nuit à Job, son podcast avec Joe Rogan.
OK.
Puis c'est vraiment, vraiment très intéressant parce que ce gars-là, c'est zéro. Tu sais, c'est triple cringe, là, mais c'est zéro triple cringe. Là. C'est pas sa personnalité, là. Il est pas de même
pantoute. Non, mais ça paraît que c'est pas lui, là.
Ouais, puis c'est hot, justement, des. Autant. C'est comme la partie qui te fait pas les aimer quand c'est des fighters. Autant quand ils voient comme étant eux-mêmes par après, c'est comme ça me fait plus aimer le gars que il est intelligent, man. Puis la manière qu'il fait les choses, il a vraiment dédié son training camp à la science là, dans les derniers temps. Là. Fait que vraiment, il y a tout plein de spécialistes quelconques. Puis la manière qu'il a vraiment, c'est un des premiers gars d'MMA à vraiment bâtir un camp alentour de lui. Son coach, tu sais, il, comme à la boxe, il faisait venir des gars pour du sparring, puis il payait les gars pour le sparring. Puis à chaque jour qu'il avait son sparring, il faisait ça en même heure que le combat. Puis, tu sais, il sortait avec sa musique, puis tout. Puis, il faisait tout le petit rituel de rentrer dans la cage pour se mettre comme dans le mood du combat. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est intéressant de voir comment ce gars-là, il était capable de...
Mais je comprends pas pourquoi que... Ben non, je le comprends en même temps parce qu'ils font pas beaucoup d'argent, fait qu'ils peuvent pas se permettre ça, là. Mais ça devrait être ça, tu sais, en boxe, c'est ça. Là, ton camp d'entraînement, c'est complètement dédié à toi. Puis je sais pas si t'as déjà vu des footage des camps d'entraînement de Floyd Mayweather. C'est tout un cirque, mais en même temps, c'est tight, là, tu sais. Il y a toujours un moment dans le camp d'entraînement de Floyd où tout le monde qui est dans le gym va avoir son combat contre Floyd, là, puis il est fait un après l'autre, là. Il est en... Il est game shape là, rendu à son combat parce qu'il s'est bien entraîné. Là. Il comprend, c'est du travail. Hein. C'est du travail, c'est rien d'autre là, pour être excellent. Mais ouais, les gars, ils peuvent pas se payer ça, là, j'imagine, des gros camps d'entraînement à 200 000 $.
Là. Non, puis c'est vraiment un double-edged sword, là, pour être honnête avec toi, parce que d'un côté, d'être dans des gros camps, là, mettons ATT et des places de même, man, tu sais. Tu peux débarquer ces matchs, là, si t'es un gars de 155 ou 170 livres, là, t'as littéralement Jorge Masvidal, puis Dustin Poirier, puis ils sont là à tous les jours, tu sais, pour travailler avec toi, puis le fait de t'entraîner avec ces gars-là, tu sais, t'apprends des meilleurs, tu drilles avec les meilleurs, tu pratiques avec les meilleurs, fait que veux pas, les petites choses qu'ils font, tu vas les intégrer dans ta game, puis tu vas comprendre, un peu leur manière de voir ça, puis c'est vraiment bon, là, pour un combattant qui est de moins grande expérience, que de s'entraîner avec ces gars-là, mais
l'autre. Ouais, mais c'est bon pour toi, mais c'est pas bon pour eux, tu sais. Il y a pas rien de ça.
Non, ben c'est sûr que tu as des cas comme ATT. Masvidal va toujours avoir Poirier, puis Poirier va toujours avoir Masvidal.
Ouais, ouais, non, c'est sûr.
Fait que c'est sûr que pour les gars moins bon niveau, c'est bon pour eux de s'entraîner avec eux. Puis tu sais, pour les Masvidal puis les Poirier, veux, veux pas, ça te prend ton Dustin Poirier dans le gym, mais ça te prend un gars qui est moins bon aussi. C'est vraiment bénéfique, quelqu'un qui est moins bon que toi, parce que ça te permet d'essayer des choses que peut-être tu n'essayerais pas contre Dustin Poirier, parce que tu sais qu'il va te tuer si tu essayes ça. Puis c'est le même qu'il y a des gars qui ont réussi à fine-tune là, des techniques qui sont ouais, peu orthodoxes, mais ils ont réussi à vraiment les passer à des gars moins bons. Puis ça a fait qu'un moment donné, ils sont devenus tellement experts dans cette technique-là qu'ils sont capables de la passer à des gars vraiment bons. Mais mm-hmm, l'autre côté de l'épée, ben, c'est justement que sacrement, si tu fais des sparring genre souvent contre Dustin Poirier, tu dois quand même te faire casser la gueule. Là. Même si t'es Jorge Masvidal, c'est... puis il y a une mentalité, surtout ici, là, localement, que j'essaie d'en parler à une couple des gars, c'est quoi, je comprends pas. Il y a bien gros du monde que genre leur manière de s'entraîner, d'avoir un bon training dans leur tête à eux, c'est si ça se tape ça à la gueule, OK?
Ouais, ouais, ouais.
Puis, tu sais, ils mènent des astis de Jim Ward, de Mongol, là. Il y en a souvent, là, entre ces gars-là. Puis, ça peut pas être bon, genre, de littéralement.
Ouais, non.
Tu sais, c'est comme, mettons, bon, de Drew Dober, OK? C'est un site, là, il est en feu, là, chez 155.
Ouais, ouais.
Puis, tu vois, ça paraît, là, son training avec Justin Gaethje. Mais, quand il va devenir plus vieux, ça va paraître aussi, son training avec Justin Gaethje.
Ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, un entraînement, ça devrait être fait pour travailler des outils et non les apprendre à la dure en mangeant des coups de poing. Je pense que ça vient de la boxe, justement, un peu, malheureusement. Tu sais, ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés, là, mais ouais, les Gym Wars là, en boxe, tu sais, le Crunk Gym là, était réputé ouais, pour ça. Là, tu sais, c'était genre qui est le roi du gym, là, puis ça s'arrache la tête, mais tu sais, au final... Moi, je me rappelle d'un un boxeur irlandais qui s'appelle Andy Lee, qui, lui, était le roi du Crunk Gym. Là, genre, il assassinait tout le monde dans le Crunk Gym. Puis là, son entraîneur Emmanuel Stewart, qui est comme une légende, là, qui est décédé maintenant, mais il disait à lui, c'est vraiment le top, surveillez-le, il bat tout le monde dans le gym. Puis tu sais, dans le gym, il y avait qui à cette époque-là? En tout cas, il y avait des très bons boxeurs, puis il battait tout. Puis sa carrière professionnelle, finalement, il a eu un peu de succès. Là. Ça a fini par être correct, mais il perdait contre du monde qui n'aurait pas dû perdre là, parce que j'imagine qu'il vivait trop de grosses guerres. Puis ça devenait même peut-être même plus l'affaire la plus importante, ses combats professionnels, parce qu'il se battait contre une espèce de nobody. Puis un gars, moi, je suis meilleur que lui. Oh shit, il vient de me pincer. Puis il n'avait pas l'air focus complètement sur la bonne affaire. C'est peut-être pas bon là, d'avoir des guerres dans le gym puis de te faire ramollir dans le gym. Mais ça dépend des mentalités aussi. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui font même pas de sparring là, en boxe. Là, fait que, il y a plusieurs mentalités. Je ne sais pas c'est laquelle qui est la bonne. Peut-être un entre-deux de tout ça. Mais ouais, comme tu dis, là, manger des coups de poing quand tu n'es pas payé pour, là, je ne sais pas. Là, c'est peut-être pas une bonne idée pour ta carrière.
Ouais. Comme tu dis, je pense que c'est un mix des deux parce que c'est weird de manger des coups de poing dans la face. Là. Vraiment, là. Puis c'est comme, j'ai l'impression, c'est sûr que ces gars-là sont habitués, là, mais je pense qu'il faut que tu manges un peu de coups de poing dans la face pendant ton training ouais, camp. Parce que, man, il peut tellement arriver des situations dans des combats. Puis, tu sais, moi, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience en striking. Quand j'ai commencé à m'entraîner en jiu-jitsu, j'ai fait du Muay Thai pendant peut-être un an, mais pas un an steady, là, mettons, une fois semaine, des fois deux fois semaine, ça donnait. Puis il y a un bout que, tu sais, les techniques qu'on voyait des cours de Muay Thai, ça commençait à passer là, dans le bag. Je commençais à faire des belles combinaisons, des affaires de même. Puis, donné, je me disais, c'est ça, du sparring. C'est du sparring en jiu à tous les jours de ma vie, là, littéralement. Fait que ça ne ouais, doit pas être si pire que ça. Là, au lieu de me faire choquer, me manger un coup de poing dans la face. Mais genre, l'effet que le coup de poing dans la face il y a, c'est pas de te faire mal. C'est juste que ça te met dans une genre d'état de, comme de panique, c'est que tu oublies littéralement ce que tu sais, genre.
Ah ouais, ça vient d'arrêter le temps, là, puis t'es
ouais,
comme...
c'est ça. Oh. Le premier coup de poing dans la face que j'ai mangé, là, mes combinaisons que je pratiquais dans le sac, là, je m'en rappelais plus, là.
C'est sûr.
Je m'en rappelais plus pas tout, mon gars.
Là. Le j'avais cerveau plus reptilien qui embarque, là.
Ouais, c'est ça. J'étais juste jamais là. J'étais là, Chris, man, dans le fond, ça se passe. Pour vrai, là, je mange des vrais coups de poing dans la face, puis tout. Puis
ouais.
C'est comme... J'ai l'impression que t'as besoin d'un peu de ça pour... tu sais, pas te faire surprendre parce que MMA, là, les gants, man, ça pardonne pas. Puis les gants, puis les tibias aussi, puis tout. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est comme un avantage là, du MMA par rapport à la boxe côté santé du cerveau. Là.
Ah ouais, non, mais parce totalement.
Tu sais, man, combien de gars on a vu là, tomber après leur combat à la boxe parce qu'ils se sont pas fait knocker, justement.
Ouais.
Ils ont été commotionnés au troisième round, puis leur cerveau continue de brasser pendant six autres rounds après.
Ouais, non, mais je suis 100% d'accord.
En MMA, si tu te fais ramasser avec les 14, puis ça passe à la bonne place, c'est ciao, pao, puis c'est un gros impact sur ton cerveau, mais au moins, t'as pas les autres rounds d'après.
Ouais. Ouais, c'est ça qui est dangereux, t'as raison.
Mais je pense que t'as besoin là, d'avoir ça un peu dans ton training camp pour être prêt, pour pas te faire surprendre par le premier bon punch que tu manges, puis oh shit, j'avais comme oublié à quel point ça pouvait genre changer.
Ouais, faut que tu sois habitué à cette douleur-là, je pense. Là,
mais pas trop non plus.
Ouais, pas trop. T'as raison. Mais oui, il faut que tu deals avec. Là. Moi, je me rappelle mon premier sparring en boxe, je mangeais un coup de poing dans le ventre. Là, t'sais. Mais tu sais, un bon coup de poing au corps, c'est dans le foie, puis t'es fini, puis tu peux plus te relever. Mais on oublie tous les coups de poing dans le ventre, que même si tes abdos sont contractés, je veux dire, si la personne a moindrement un bon punch, ça fait un gars. Et là, j'avais juste envie de me plier en deux, puis. Mais je voulais pas faire ça, je suis quand même orgueilleux aussi. Fait que là, il faut que tu apprennes à dealer puis faire semblant que t'es pas en train de respirer de même. Il faut que tu fasses semblant que tu es encore là. Puis gagner du temps en faisant croire à l'autre que ça va bien tes affaires, puis essayer de le surprendre au travers de ça. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, là. C'est pas quelque chose que naturellement, c'est ton réflexe, là. Crissement pas.
Non, c'est ça. Puis c'était. Moi, j'ai toujours rappelé mon premier sparring. Je suis allé à un open mat, là, puis là, j'ai fait une coupe de ronde de Jiu. Puis là, il y avait un gars qui faisait du Muay Thai, mais je n'avais jamais vraiment comme checké au Muay Thai. Je savais qu'il était là, mais je savais pas s'il était bon. Je ne savais pas rien. Puis c'était un petit Français, là. Puis il dit, tu veux mettre les gants? Je dis, ouais, on peut bien, mon gars. J'ai jamais fait ça, mais je suis down d'essayer. Je me suis rendu compte assez vite que ce gars-là, ben, dans le fond, il avait comme 8 ans de taekwondo de compétition dans le corps, puis genre une douzaine d'années de boxe française. Fait que le sparring, ça a littéralement été moi qui mange des spinning kicks dans la tête. Mais tu sais, là, le gars met vraiment rien dans ses kicks, mais il y a tellement de bonnes techniques.
Quand même.
Il y a tellement de bonnes techniques que les kicks slapent et ils font mal, même si je le vois vraiment qu'il met rien là, dans ses kicks. Il fait tout pour pas me faire mal. Mais Chris, il me fait mal pareil, puis je peux rien faire, je peux pas m'approcher. Dès que je fais un move, bang! Je me fais geler, coup de pied dans la face, de la gauche, de la droite, tout, la lead leg, là, switch même pas sa stance avant de me péter ça dans la face.
Ouais.
Okay, gros, je pense que j'ai des choses à apprendre ici. Puis...
Mais ça, c'est une affaire qu'on réalise pas tant que tu l'as pas fait un peu. Eux, là, ouais. Placer un coup, c'est tough en tabarnak. Si c'est compliqué, c'est vraiment. Tu peux pas juste lancer un coup et il lande. Il faut que tu le prépares, puis il faut que tu sets des traps, puis faut que tu lances des combinaisons. Là. C'est pas juste des coups uniques. Là. Tu vas être capable d'atteindre la personne. C'est vraiment. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour lander un coup. Là. Pour lander même un jab, là, c'est full compliqué. Fait que c'est essoufflant. Là. C'est vraiment essoufflant, puis c'est décourageant en fait quand ça marche pas, puis que tu manges des coups en retour.
Ouais, vraiment. Écoute, ce sparring-là m'a fait savoir que oui, j'aimais bien ça faire du Muay Thai sur le site, ça gardait en forme, mais je pense que j'étais un gars de Jiu. Définitivement un gars de Jiu, parce que, genre, j'ai pas aimé ça tant que ça, me faire frapper dans la face. Contrairement à. Genre, quand je me fais pogner, là, quelqu'un essaie de me choquer, soit avec mon kimono, ça j'aime ça.
Ça, ouais, je comprends.
Moi, je suis plus le genre de tata à défendre le choke jusqu'à temps que whoop, je me réveille, genre. Puis je suis là, est-ce qu'on est, c'est que les boys, ah oh, oui, au gym, c'est vrai, du Jiu, ok, nice. Ça me dérange pas, je suis vraiment con, là, dans là. Mais, on dirait le coup de poing dans la face, je sais pas, c'est peut-être que je tiens trop à mon cerveau, puis je le sais que.
Mais ça a l'air, c'est pas bon, les chokes pour ton cerveau,
non,
j'ai vu ça récemment. J'étais pas au courant, c'est pas bon. Ben, pas trop, mettons.
C'est sûr que tu essaies de pas trop te faire endormir. Là.
Ouais,
c'est pas mal l'équivalent. C'est l'équivalent d'un knock-out. Pas mal, là, ouais. C'est ton corps qui est genre, ouais, ben j'ai plus aucun sang dans le cerveau, fait que je vais shut down ça avant qu'il y ait une conséquence très grave.
Ça a l'air comme d'une erreur de machine. Tu sais, comme, hop, on sait plus quoi faire, on éteint tout. On reboot.
Hey, c'est la confusion, là. C'est la confusion quand tu te réveilles, là.
Ouais, je me suis jamais fait choquer, je sais pas.
La première fois, moi, ça m'est arrivé deux fois. Puis okay. Les deux fois, je le savais pas que je me faisais choker. Ça, c'est la pire affaire, là. Premier coup, je me suis fait prendre dans un triangle inversé, mais il n'y avait pas mon bras. Okay. Il y avait juste littéralement un triangle alentour de mon cou. Puis je me rappelle pertinemment de m'être dit « Ouais, genre, je respire mal en ce moment, mais il n'y a pas mon bras, donc c'est pas un triangle, donc c'est une position. Donc, je vais juste travailler pour me sortir de cette position qui est indésirable. »
Ah ouais.
Puis là, man, je me suis rouvert les yeux, puis mon chef dit « Hey, Faber, ça va, le gros? Ah. » Ah, puis je me rappelle que plus tôt dans le cours, on drillait des triangles. Puis mon premier réflexe, ça a été « Chris, on était encore en train de driller. » J'ai oublié de taper sur le triangle de mon chum, puis je me suis passé en plein milieu de la drill comme un épais. Puis finalement, je me suis rendu compte que non, si je roulais, j'étais définitivement en train de rouler avec quelqu'un. Mais c'est fou même l'effet que ça m'avait fait, parce que ce jour-là, j'étais vraiment pas en forme, OK? Puis moi et un de mes chums, on a la fâcheuse manie de comme quand même beaucoup fumer avant un cours de joue.
Okay.
Fait que non seulement, mais c'est fou comment c'est bon, là. Genre, les gars de Jiu pur, 100% Jiu-Jitsu, c'est certain des plus grands fumeurs de pot que
j'ai. Ah ouais, ah, je suis pas au courant de ces cultures-là.
Oh, c'est incroyable comment, tu sais, le Jiu, c'est funky, là, un peu, puis on bouge. Ça l'aide, ouais. Là, vraiment, je trouve. Là. Moi,
ça, ah ouais, ça aide le flow, genre, un peu.
Ouais, vraiment. Mais en tout cas, ce jour-là, ça n'avait pas aidé. On avait fumé de la wax aussi, là, veux pas, là. Fait que c'est peut-être pas l'affaire que si tu fumes un petit joint, peut-être que ça t'aide, là, quand ça a buzzé sa wax. Fait que j'étais vraiment pas en forme. Je roulais comme de la merde, j'étais pas bon. Puis je me suis fait endormir. Puis man, c'est comme si je venais de dormir pendant 3 heures. J'étais un nouvel homme, j'ai tout repoigné. Je sais pas ce qui est arrivé. Pourquoi quand tu peux dormir 3 secondes parce que t'as plus de sang au cerveau? Puis tu te réveilles, mon top shape, comme si tu venais de faire genre une nuit complète de sommeil.
Ah ouais.
Après ça, mes rolls allaient bien, mon gars. Ça, j'étais là, hey, Chris, peut-être que je vais faire ce pass-out plus dans le fond.
Un petit choke en début d'entraînement à chaque fois.
Ah, mais ça, je suis pas en forme aujourd'hui. Choke-moi. Tu te fais endormir, tu te réveilles.
Ouais, moi, j'ai juste fait une fois un petit cours de jiu-jitsu. J'ai beaucoup aimé ça. Je devrais m'y mettre un peu. J'aime la mentalité, j'aime la vibe, j'aime aussi justement là, que c'est pas violent comme la plupart des arts martiaux, là, comme qu'il y a un certain respect dans tout ça, puis c'est extrêmement efficace là, comme technique. Fait que ouais, non, j'avais beaucoup aimé ça, mais j'ai pas continué, mais ouais, j'ai beaucoup de respect pour ça.
Ah, moi, je suis tombé. J'avais pensé que j'allais comme aimer ça de même, là, puis tomber là-dedans. J'ai jamais été vraiment bon dans le sport, moi. C'est comme, j'ai joué au hockey, j'étais goaler. C'est comme, mettons, ma deuxième année, des fois, je jouais dans le A, mais sinon, je jouais dans le B. T'sais. J'ai comme, jamais été un bon joueur de hockey. Je n'étais pas un mauvais joueur de hockey. Je n'étais pas un bon joueur de hockey. Même affaire, cours d'éduc, là, on joue au basket, tout. J'ai jamais été le pire, mais j'ai jamais été le meilleur non plus.
Mm-hmm.
Parce que je ne suis pas tant athlétique pis tout. Je suis pas un gars full explosif. Mais le jiu-jitsu, c'est le seul sport que j'ai trouvé que je suis capable d'être bon parce que ça me permet d'utiliser une de mes forces qui est littéralement réfléchir. Genre, moi, j'étais un gars, j'étais un bolé à l'école. C'est ça ma facilité, c'est avoir des bonnes notes à l'école sans même étudier, sans même comme juste écouter dans le cours, puis j'ai pas besoin de revenir sur mes notes après. J'avais des bonnes notes. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, là. C'est ça ma force. Puis dans le jiu, tu es capable de comme pogner des affaires de l'extérieur de même, puis de les amener, puis de les inclure à ta game de jiu. Ça crée ton style, ça fait que tout le monde peut être bon dans ce sport-là. Autant moi, ouais. Le gars qui n'est pas full athlétique, mais qui est plus réfléchi, puis qui est étrangement flexible parce que j'étais goaler au hockey. Fait que ça fait que moi, j'ai une game là, vraiment plus counter jiu-jitsu, mais que je suis en dessous, puis j'ai une bonne garde parce que mes jambes sont flexibles, puis je suis frustrant, puis t'sais, je crée mes opportunités de là. Comme il y a quelqu'un d'autre que lui, t'sais, c'est un athlète à l'école, il était bon dans tous les sports, puis ça donne un genre de gars vraiment explosif qui réfléchit pas trop à ce qu'il fait, mais que son instinct est bon. Pis...
Mm-hmm. Fait que c'est ça. Non, c'est ça, mais c'est ça qui est fou du jiu-jitsu, c'est que c'est fait pour tout le monde, peu importe la carrure que t'as. T'sais, moi, le seul cours que j'ai fait, il y avait une fille qui donnait des petits ateliers, elle devait peser, je sais pas, 120 livres, là. puis je suis par-dessus elle, je suis dans sa garde, mais tu sais, comme elle me juste pull avec ses jambes, là. Et comme elle a pu me knocker sur le mat, là. T'sais, sa technique était parfaite, puis j'étais comme, oh shit, ok, c'est quand même, c'est des techniques efficaces, là, tu sais. Elle est tout petite, mais elle m'aurait fini en 4 secondes, ce qui est normal, là, parce qu'elle elle savait ce qu'elle faisait, mais c'est ça, c'est assez impressionnant comme technique.
Ouais, puis j'avais sous-estimé tout le fait que. Tu sais, c'est comme Moutou, je checkais ça, puis de loin, je disais, ah, tu sais, c'est comme, c'est hot, c'est du tiraillage, tu sais, puis il y a des techniques, puis c'est hot, ça a l'air vraiment efficace, mais jamais je m'attendais, je savais pas dans quoi je m'embarquais, là, quand je suis rentré là. Tu sais, c'est comme tes premiers cours de jiu, là, quand t'apprends 2-3 techniques, puis après, c'est comme, bon, let's go, les gars, on roule. C'est genre, ok, c'est quoi ça, rouler, ou juste, ah, bon, on se bat, ça, on roule, ça, let's go, man, tu serres la main, puis on y va, puis tu te débrouilles avec ce que t'as, puis man, tu te retrouves dans des situations où tu as littéralement l'impression que tu te bats pour ta vie, là. Ouais. Tu sais, t'es en dessous de quelqu'un, puis t'es genre, man, genre, je ne sais pas comment sortir de là, je pourrais jamais savoir comment sortir de là. Puis t'es vraiment, là, tu te fais humble, là, pendant 6 mois, puis ça prend une certaine toughness, ouais, mentale pour. T'sais, continuer là-dedans, puis te développer. Puis quand tu te développes, tu commences à te développer un style, tout, c'est là que ça devient le fun. Puis c'est ça qu'il y a avec le jiu, c'est que tu commences au bas, là, tu te pètes à la gueule, man. Puis au début, c'est comme quasiment décourageant, parce que c'est quasiment, qu'est-ce que je fais? On dirait que ça ne rentre pas mon affaire. Mais à partir de là, c'est juste de plus en plus beau. Puis à un moment donné, tu commences à te bâtir des affaires, là, que.
Ouais, ouais, mais c'est ça qui est le fun. Il y a des niveaux à l'infini que tu peux pogner. Puis,
même mon coach qui est Black Belt, man, il apprend des niaiseries de nous autres, tu sais, à tous les jours, puis il développe sa game, puis on développe toute notre game ensemble. Puis c'est ces gens-là se rendent, tu sais, certains de mes meilleurs amis dans la vie aussi, là. Mm-hmm. C'est juste malade ce que ça crée. Puis je pense que c'est une des façons les moins violente, là, ben, tu sais, c'est violent. Si t'es cave, tu peux te faire péter un bras, tu peux te faire péter une épaule.
C'est sûr.
Tu peux te blesser vraiment gravement, mais c'est pas non plus un sport.
C'est pas le but.
C'est pas genre du Muay Thai, là, où tu vas en Thaïlande, puis littéralement, là, pendant une demi-heure, t'as un petit taille de 120 livres, puis tu te kicks dans les jambes en malade, là, pour t'endurcir tes jambes, là. Puis...
Ouais.
T'as le moyen de devenir quelqu'un qui est crissement formé pour se battre, puis se défendre dans la vie, tout en faisant quelque chose que, oui, tu vas te blesser, mais pas trop.
Ouais. Mais je pense que ce qui est le fun du jiu-jitsu, c'est que tu apprends les bonnes leçons que tu dois apprendre dans les arts martiaux, mais de manière. Ça te rend humble, comme tu dis, mais c'est de manière pas nécessairement super violente, là. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'allais plus dans les gyms de boxe, là, j'y vais moins, mais la manière de te rendre humble en boxe, c'est de manger des coups de poing, là. Tu sais, c'est ça, puis c'est quand même. C'est violent, puis ça fait souvent en sorte que les dos n'y reviennent pas, là. C'est pas le fun. Moi, je me rappelle d'un gars qui est. Je me suis entraîné un petit bout de temps au gym Interbox, là, dans le temps que Lucien Goutte était hot, puis Adrian Diaconou, puis tout ça. Puis il y a un dude qui était rentré dans le gym pour s'entraîner, il était fucking cut, là. T'sais, c'était comme une armoire à glace, là. Il était musclé, là, quand ça. Border culturiste, puis lui, il était. Tu sais, c'était la première fois qu'il rentrait dans un gym de boxe, mais il pensait qu'il pétait tout le monde. Fait qu'il était cocky quand même, puis il était quand même à tout jeu de poignée. Puis tu sais, on faisait du sparring, mais relax, ça, on est tous des. On n'est pas la crème de la crème, là. On prend ça relax, puis on essaie de se respecter là-dedans. Puis là, lui, il voulait péter tout le monde, puis il était cocky, puis ça. Puis là, à un moment donné, le coach qui est. C'est pas le coach principal, mais c'est un dude plus vieux, là, qui dit garde. Arrête, là, arrête ça, gars. Moi, je vais y aller. Je vais y aller dans le ring avec toi. Là. Arrête de gosser tout le monde. Là. Puis là, il était comme, hey man, tu sais, je vais te péter. Puis, je veux dire, c'est l'entraîneur de boxe. Là, puis il commence à le trash talk. Parce que le gars, il est vieux. Puis il est pas en shape. Là. Mais finalement, il va dans le ring. L'entraîneur dit, hey, moi, je mettrai pas de headgear. Là, j'en aurais pas de besoin. Puis là, le gars, il dit, ben, moi non plus d'abord. Ça a pris 10 secondes. Il a cassé le nez. Ouais. Ça pissait le sang. Le gros dos d'y retourner, le nez en sang, bon, on ne l'a plus jamais revu, mais ce gars-là, il a appris une leçon d'humilité ce jour-là, mais il ne reviendra pas, puis ça a été violent, puis c'est comme, c'est quand même bad, là, ça va te casser son nez, il a fallu qu'il aille à l'hôpital, j'imagine. Fait qu'il y a ça dans l'esprit de la boxe, cette espèce de bravado-là, ce machisme-là, qui est présent, puis qui n'est pas agréable. Tu sais, tu peux le transposer au jiu-jitsu, là, c'est juste toi qui es dans une position inconfortable puis qui étouffe, mais qui est pas qui a pas le nez cassé, là. Tu peux retourner chez vous après, puis juste c'est ton ego qui est cassé. C'est pas ton...
Oui, c'est ça. Écoute, c'est ça. Nous autres, c'est notre spécialité, c'est de briser des égos. On en a beaucoup, nous autres, surtout que notre salle est dans un gym. Elle est dans le Hugo Gym, là, à Saint-Jean, le gym Hugo Girard. Puis, il y a une grosse vitre, puis il y en a souvent là, des gars là, que tu vois qui check ça, puis ils seront pas hypés, puis ils faisaient un mot de bench aussi, puis je lève 350 livres au deadlift, mon chum, puis je fais du crossfit. Puis, beaucoup de gens de crossfit, ça c'est drôle. Beaucoup de gens de crossfit là, qui viennent essayer ça super confiants, puis oh mon gars, ils se font virer sur un temps. Mais justement, au moins, ben il y en a qui se font mal, c'est ça le pire des fois, mais c'est parce que si t'es trop craft, tu vas te faire mal. T'es comme. Le Jiu, t'es capable de faire ça. C'est ça que je trouve vraiment hot, là. C'est que t'es capable de faire ça super respectueusement, puis genre, pas faire mal à personne, puis vraiment prendre soin de ton partenaire. Comme, genre, t'es capable de faire payer un gars, puis s'il est pas correct avec toi, tu peux y faire comme très mal pour très longtemps, là. Justement, un Kimura, là. Genre, personnellement, demain matin, tu me donnes le choix de me faire péter le nez, me faire décollisser l'épaule béret avec Kimura, là, qui me le craint, là, genre Khabib contre Michael Johnson style, là. Oh, pète-moi le nez, man. Genre, s'il te plaît, pète-moi le nez direct là, parce que je veux pas, hey, man, te faire péter ça, puis les genoux, là, je peux te faire, si t'es cave, là, puis tu joues à la game, mais moi, je peux te leglock, puis je peux te sortir pendant un an, puis tu t'entraîneras pas, là, si ça me tente. Genre, facilement, là, très, très, très facilement, là. Je peux te décollisser les trois tendons dans le genou d'une shot, ça te tente. Mais on fait pas ça parce que c'est pas dans l'esprit du jiu-jitsu, mais on est capable puis on va le faire s'il faut le faire. Là.
Ouais. Mais tandis que c'est un peu dans l'esprit de la boxe, c'est un peu dans l'esprit du Muay Thai. Puis,
du MMA, même. Faut que tu sois méchant pour faire ça. Faut que tu aies un côté méchant. Moi, c'est ça, je me suis rendu compte. J'aime ça, le MMA. Et s'il y a des gars qui font des combats de MMA dans le gym, moi, mettre les gants avec eux, ça me fait plaisir. Je vais faire du ground and pound avec eux, mais je suis pas assez méchant. J'ai pas ça dans moi, même que des fois dans mes compétitions de jeu, ça m'est arrivé comme de perdre des combats parce que j'ai trop laissé le gars venir à moi, puis j'ai trop laissé faire son affaire. Puis des fois en compétition, faut pas que tu laisses le gars faire son affaire, faut que tu fasses ton affaire à toi. Mais j'ai comme cette tendance-là, des fois, laisser faire son affaire, je suis un bon counter guy, tu sais. Fait que j'ai pas cette méchanceté-là que ça te prend pour genre le faire du MMA ou de la boxe, que t'es genre dans l'humolette en PS, il va le mettre son cul, là, puis je vais colisser des coups de coude dans la face, là, jusqu'à temps qu'il y ait une gâche tellement grosse qu'on voit son crâne.
Ouais, faut que t'aies quelque chose dans ta tête que c'est pas tout le monde qui a. Je me rappelle, j'ai reçu Stéphane Larouche à mon podcast, puis on a parlé de Lucian, puis t'es comme, pas assez mean, Lucian. Il a toutes les qualités, puis il a eu une bonne carrière, puis tout ça, mais il y a un niveau à un moment donné où il va rencontrer des gars qui sont mean, là, comme Carl Froch. Puis lui, il n'a pas ça en lui, tu sais. Il n'a pas envie d'envoyer Carl Froch paralysé, là. Puis il n'a pas ça en lui, mais il y en a qui l'ont. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut dans le sport, c'est une qualité, I guess. Mais ouais, je pense que ça prend ça.
Ah, définitivement. Mais écoute, man, avant qu'on se laisse, là, moi, je veux que tu me donnes un peu d'espoir, OK?
D'espoir, hein, OK.
Ouais, bon. S'il te plaît, parce que les temps sont durs, là. Dis-moi, man, qu'est-ce qui se passe? C'est quand que je vais pouvoir aller masser dans une salle, checker un esti de show du mot, man? Parce que, écoute, s'il y a de quoi qui me manque, là, c'est ça.
Eh boy, c'est malheureusement, je pourrais pas te donner d'espoir aujourd'hui parce que j'en ai aucune idée. On n'en a aucune idée. Tu sais, moi, en plus, je gère un festival d'humour à Montréal, le Dr Mobilo Aquafest. Là, c'est pas mal moi qui gère ça. Fait que je suis pas mal plus au courant que la plupart des gens parce que je jase avec des gestionnaires de salles puis tout ça, puis du monde qui sont dans des comités puis tout, puis il n'y a personne qui le sait. T'sais. Mais je pense que ça va revenir assez rapidement, mais un pourcentage très réduit là, de ce que je comprends, de ce que j'entends, c'est que ça va revenir peut-être à l'automne, avec des 30% de salles, quelque chose du genre. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme expérience. Je ne sais pas si ça va être aussi le fun. On va voir. Mais ouais, je pense qu'on s'enligne pour ça. Si ce n'est pas l'automne, ça va être l'hiver. Mais c'est pas tout de suite. Mais j'ai quand même entendu des rumeurs qu'il y en a qui, dès, mettons, juillet, ou peut-être que ça allait reprendre. Mais j'y crois plus ou moins à ces rumeurs-là. Puis si c'est vrai, je pense que ça va vraiment être format réduit. Là. Fait que, mais je sais pas, je peux pas te donner une réponse définitive. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. J'espère que ça te donne un peu d'espoir. Mais moi aussi, j'ai besoin d'espoir à ce niveau-là. Je t'avoue, c'est pas mal mon gang.
Ouais, c'est ça l'affaire. Hein?
Ouais. Mais bientôt, I guess, bientôt. Je sais juste pas de quelle manière, puis je peux juste pas te donner de date exacte, malheureusement.
Ah, shit, hein, parce que, écoute, moi, c'est comme, s'il y a une affaire que j'aime faire là, pour juste comme me changer zip, décrocher, c'est aller voir un esti show d'humour. Peu importe c'est où, c'est qui, c'est quoi, man. C'est ça que j'aime. Comme je parlais, que j'ai reçu Jerry Alain, là, une coupe, un mois, je pense qu'on était plus dans le corona qu'en ce moment, là. Puis, donc, tu sais, comme je disais, je suis pas un grand consommateur de rien de québécois. J'aime pas vraiment la musique québécoise, j'aime pas vraiment la télévision québécoise, j'aime pas vraiment la télévision, point, là, à part le UFC, j'écoute pas vraiment ça. Mais je suis rarement porté à écouter du québécois, sauf étrangement pour l'humour. C'est ce que je trouve qu'on fait qui est le meilleur. Mais je trouve qu'on est tellement bon en humour au Québec. C'est un peu à cause de la langue aussi, là. Je trouve que la langue française québécoise est tellement excellente, puis tellement facile à manipuler pour rendre les choses super drôles. Je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle qu'un esti québécois, genre, à Chris qui pète une rank, là. Puis je trouve que c'est ce que j'aime le plus faire, man. Tu vas
Ouais,
être
mais je
fait,
pense que tu sais aussi, l'humour, c'est très. Faut que ça soit rassembleur, puis il faut que. On joue beaucoup sur les points communs, puis ce qui nous rassemble, ce qui nous unit ensemble. Fait que tu sais, plus c'est local, mieux on aime ça. Tu sais, c'est rare, là, mettons, un Français qui a réussi à crossover au Québec. Puis même à faire, mettons, les Américains au Royaume-Uni ou l'inverse, c'est assez rare. Bon, il y en a de plus en plus quand même des Américains qui sont capables de pogner au Royaume-Uni, mais quand même, ça prend les référents locaux. Puis c'est vraiment un contact direct avec le public, ce qui n'est pas vraiment remplaçable, je pense, par un gros humoriste américain qui vient au Québec. Il va remplir sa salle, tout ça, mais ça ne sera pas le même feeling. Là. Tu ne te sentiras pas aussi proche. Puis c'est ça, c'est créer un sentiment de comme si tu étais mon chum. C'est un peu ça que je vise là, quand je fais un spectacle, que tu as l'impression que je suis ton chum qui te jase d'un truc. C'est plus difficile de sentir que. Un Américain du Texas, c'est mon chum. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est aussi efficace l'humour québécois, puis que les gens aiment autant ça, d'après moi.
ouais, on le fait bien, là. Je pense que c'est une de nos grandes forces, là. Tu sais, il y a des bons artistes québécois, musicaux pis tout, mais il y a rien qui m'a jamais fait accrocher comme, mettons, je peux accrocher à, tu sais, un show d'humour québécois, là, une astuce gag hilarant que j'ai vu, ou
Ouais, je
pas de même,
comprends.
que, tu sais, on se rappelle longtemps. C'est comme, autant il y a beaucoup de gens que pour eux, leur occasion, mettons, de se réunir en famille, entre amis pis tout, c'est justement d'écouter du UFC, d'écouter un gala de boxe, d'écouter des affaires de même. Moi, dans ma famille, notre occasion justement de se faire comme vraiment une sortie là, en famille, un bon resto avant, puis après on va voir un show d'humour. C'est notre sortie de famille qu'on aime faire, ma mère, ma soeur, puis c'est comme notre petit rituel de genre, tu sais, on change la routine, on va faire de quoi de le fun, puis c'est con, là. Je pensais pas que ça allait être de quoi qui allait sortir de la pandémie, mais ça me manque, man. Ça me manque quasiment autant qu'aller voir genre mon artiste préféré, ici au Centre Bell, pourquoi ça me manque même d'aller voir.
Je comprends, mais ouais, je ne peux pas te donner beaucoup d'espoir là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on va être les
Ouais.
derniers à recommencer.
Ben,
C'est pas mal ce qui va se passer.
comme les GMS, comme le Jiu-Jitsu, là, nous autres, moi, je te cacherai pas en ce moment.
Ouais, j'avoue.
On a des amis qui ont des matchs chez eux, puis, tu sais, on s'est fait un genre de petite gang de monde qu'on le sait que c'est pas des gens qui voient, tu sais, trop de gens qui sont dans toutes les chillings, puis tout, mais c'est comme un moment donné, man. C'est pas une joke, là. Je m'en allais quasiment donner mon nom d'un CHSLD, là, aller choquer des vieux avant qu'ils crèvent du COVID, anyway, là. Parce que j'étais en train de virer complètement fou, là. C'est pour.
Aura pas beaucoup de résistance, par exemple.
Non, c'est ça. Mais
Le tap-out, il va venir assez vite.
côté santé mentale, là, j'en avais besoin, man. Je me suis retrouvé, là, un bon 2 semaines dans le milieu de la pandémie où j'étais juste mad. J'étais juste mad après tout. J'écoutais la TV, je sacrais après la TV, je sacrais après les nouvelles, je sacrais après mon ordi, je sacrais après tout. C'est aussi dans le temps que l'UFC essayait vraiment de s'obstiner pour faire une carte. Puis
Ouais, puis ça marchait pas.
j'étais pas down avec ça, là, pour être franc. Il n'y avait pas mon moral pass, là, pour ça. Principalement à cause de la paix des fighters, là. Dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui prenaient des estis de risques inutiles d'aller se battre pour peu d'argent dans les conditions les plus merdiques, là, qui existent. Puis, en tout cas, pendant ces 2 semaines-là, j'étais juste vraiment mad. Puis je me suis rendu compte que c'est ce qui manquait à ma vie, c'était le jiu-jitsu, man. Puis dès que j'ai recommencé à en faire, like, un chum ou deux sur le site, ben, je suis revenu moi-même. Puis depuis ce temps-là, je vis bien. Fait que je suis heureux.
Ouais, je pense que ça va revenir tranquillement, là, si je peux te donner de l'espoir, là, comme à l'automne, d'après moi, s'il n'y a pas de rechute de ce virus-là à l'automne, pas mal tout va reprendre là, tranquillement. J'ai le feeling que c'est ça qui va se passer. Mais bon, je ne veux pas jinxer cette affaire-là, là, mais je pense qu'on se dirige vers là. On va pouvoir reprendre une vie un petit peu plus normale, entre guillemets. Ouais.
Ouais. Je pense que les gens et tout, ils ont fait un bon cheminement mental là, par rapport à ça, dans le sens que au début, je pense que la peur était quand même collective. Je pense que plus que ça avance, plus les gens ils ont réussi à comme un peu assess the situation, puis se rendre compte que oui, tu sais, il y a définitivement un virus, c'est dangereux, il faut prendre nos précautions pour ne pas le propager. Mais tu sais, man, je pense pas que moi et toi, si on pogne le corona, on va nécessairement mourir non plus. Là.
Ouais, ouais. Le pire, c'est que je pense que je l'ai pogné. Je n'ai pas dit ça à personne, mais au début de la pandémie, j'ai vécu la pire grippe de ma vie. Là. Je ne sais pas si c'était ça, là, mais pour vrai, c'était fucking hardcore. J'avais de la misère à respirer au complet. Ça bloquait, puis j'avais aucune énergie. Tout était une montagne. Ouais, c'est la pire que j'ai eue. Fait que je me suis dit, ouais, c'est peut-être ça, mais je n'ai pas passé de test. C'était pas possible au début. Il n'y avait pas vraiment possibilité de... Mais je confirme, c'est pas nice, mais je peux pas dire si c'est ça ou pas. Là. J'ai aucune idée. Je sais qu'il y en a une couple là, qui disent ça. Je pense que je l'ai pogné et qu'ils disent n'importe quoi finalement. Mais ouais, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il faut prendre nos précautions, mais je pense qu'il ne faut pas virer fou non plus parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui le pognent et qu'il y ait de l'immunité et que nos corps s'adaptent à ça.
Non, exactement. Mais écoute, merci beaucoup, Guillaume. C'est vraiment nice. Mon gars. Puis je vais te laisser aller, m'aller dormir, moi, m'enseigner.
Ah ouais, 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 all right.
Puis, thanks, écoute, man. Ça fait plaisir de t'avoir reçu n'importe quand, on peut refaire ça, man.
Yes, on se tient au courant. Ciao, man. Bonne nuit.
Ciao. Bye-bye. Merci.